Merci, Franeville. Vous pouvez vous asseoir. Premièrement, j'ai été tellement occupé aujourd'hui qu'il y a des malades dont je n'ai pas pu m'occuper. Je devais voir des gens en privé et prier pour eux. Mais bon, certains, il y a un groupe, je crois que Billy a dit, qui vient du Canada, de deux ou trois endroits différents. Vous savez, ils viennent ici et ils logent toujours à l'hôtel et dans des motels. Je vais les voir, les rencontrer et prier pour eux. Ils viennent de partout, du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, de partout. Quand nous sommes ici, les gens viennent jour après jour. Il y en a plus de 600 sur la liste qui attendent pour un entretien privé. Donc, ça rend la chose assez difficile. Mais les gens qui sont très malades et les cas urgents pour lesquels il faut prier, eh bien, je m'efforce de les voir. Eh bien, en fait, j'étais là avec le conseil des administrateurs pour une petite séance avec mon conseil des administrateurs ici à l'église. Nous devions nous voir il y a quelques instants. Le temps passé là m'a retardé d'environ une heure et demie, alors que des gens devaient être ici à ce moment-là afin qu'on prie pour eux. S'ils sont ici, j'aimerais prier pour eux maintenant. Donc, s'ils le veulent bien, ces gens pour lesquels on devait prier, eh bien, s'ils veulent bien s'avancer maintenant, pendant que le pianiste, quelle que soit la personne, vient nous donner la note pour le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Maintenant que ceux pour qui il faut prier, s'ils le veulent bien, combien il y en avait, je ne sais pas. Je suppose qu'il s'agit de vous, frère. Frère, moi-même, j'ai beaucoup souffert dans mon corps. Jésus a porté la souffrance dans son corps afin de pouvoir être le médiateur qu'il fallait. En effet, c'est pour souffrir que lui, qui est Dieu, a été fait chair. Il a pu ressentir la douleur des infirmités. C'est pour cette raison qu'il est venu faire une expiation. Et de ce fait, il a commissionné son Église pour continuer son œuvre. Et j'ai une haute estime pour le corps médical, les chirurgiens et les autres qui, par les talents que Dieu leur a donnés, interviennent de différentes manières sur le corps, opèrent, arrachent des dents abîmées et ainsi de suite. J'apprécie ça. Mais le moment arrive où cela dépasse leur connaissance. Ils ne savent pas quoi faire, voyez. Alors je pense que nous avons parfaitement le droit, comme nous l'aurions dans le naturel, si nous allions chez notre médecin de famille, peut-être un médecin à la campagne, un bon vieux médecin qui, la nuit, une lanterne à la main, traverse les champs pour aller vous trouver et vous soigner. Et s'il ne connaît pas le problème, il s'adressera à quelqu'un qui, lui, est un peu supérieur. Il vous enverra chez un spécialiste. Et alors, si le spécialiste ne sait pas, je suis content que nous ayons une autre ressource, le grand médecin. Lui ne faillit pas. Celui-ci ne faillit pas, parce qu'il est lui-même le Créateur, et il a ouvert la voie pour nous. Bon, s'il y avait en moi une puissance de guérison qui me permette de le faire, je viendrais le faire. Je le ferais volontiers. Mais quant à une puissance de guérison, je n'en ai aucune. Aucun autre homme n'a la puissance de guérison. Mais voyez-vous, nous sommes commissionnés par Christ de prier pour les malades. Lui qui a déjà mis sur un compte de dépôt la puissance de guérison. Voyez, et nous venons seulement, pour ainsi dire, tirer un chèque sur ce compte. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est un chèque en blanc. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Quelle promesse! Cela ne peut pas faillir. Et j'ai aidé mes frères et sœurs dans le monde entier à faire ces dépôts ou à encaisser ces chèques par le sang de Jésus-Christ à la banque de Dieu. Et cela a été une grande réussite. Il s'en est toujours acquitté, parce que le dépôt se trouve déjà là, vous voyez. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous voyez, tout est terminé. Et ce soir, nous nous réjouissons de votre foi. Je crois que Billy m'a dit qu'un frère a fait tout le trajet depuis le Canada ou d'ailleurs. Pas vrai? C'est vous, le frère du Canada? Et d'où venez-vous, frère? Candleville, dans l'Indiana, près de Fort Wayne. Je me suis marié à Fort Wayne. Je me souviens bien, j'y ai tenu de nombreuses réunions au Rediger Tabernacle. Je pense que vous savez où ça se trouve. Je me souviens qu'en jeune homme, j'étais assis au pied de Paul Rader, au Rediger Tabernacle, alors que je n'étais qu'un jeune ministre. C'était un grand homme, frère Paul, frère Rediger aussi, des hommes de foi. Leur âme est dans le repos ce soir. Donc, j'étais un jeune homme. J'essaie maintenant de continuer ce qu'ils ont laissé, ce que Jésus a laissé pour son Église tout le long. Maintenant, avec toute la foi que j'ai, je viens prier pour vous. Et je ne viens pas n'importe comment. Nous ne voulons absolument pas aborder cela de cette manière. Non, ce n'est pas correct. Nous venons en croyant que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Vous voyez, en sachant que Dieu l'a promis. Nous venons avec l'assurance dans notre cœur que Christ a fait la promesse et que vous, frères, vous avez essayé de déposer votre foi sur l'autel, que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Moi, je viens déposer la mienne avec vous ce soir. Voyez? Et maintenant, nous avons un grand autel qui s'étend à travers les cieux. Et sur cet autel se trouve notre sacrifice, le Fils de Dieu. Voyez? C'est ce sacrifice sanglant. Dieu ne peut pas le regarder sans le respecter, voyez, car c'est sa parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je vais demander à frère Neville, notre ancien, de bien vouloir s'avancer maintenant avec moi pour aller le faire. Je veux que toute l'Église, et si c'était votre frère, votre mari, votre fils, votre père, il l'est pour quelqu'un. Souvenez-vous, approchons-nous maintenant de Dieu en faveur de ses frères avec la plus profonde sincérité. Courbons la tête. Bienveillant Père Céleste, nous amenons maintenant en ta présence, près de l'autel de la grâce. Bien qu'ici sur terre, nous nous tenions à côté d'un petit bon bois, en quelque sorte. Cependant, notre foi s'est élevée jusqu'au grand autel de feu ardent, là-haut, où se trouve Jésus. Cette odeur agréable devant Dieu, le sacrifice de sang du calvaire, qui a triomphé de toute maladie, de toute infirmité, de la mort, de l'enfer et de la tombe, qui est ressuscité et qui est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de sa majesté. Et nous, par la foi, nous venons en nous élevant là-haut dans la grâce de Dieu pour dire, par-dessus cet autel, au grand Créateur des cieux et de la terre, accueille-nous Seigneur, alors que nous nous approchons au nom du Seigneur Jésus. Voici nos frères. L'un d'eux vient de plus loin que Fort Wayne, ici aux États-Unis, et l'autre de tout là-bas au Canada. Ils sont venus pour ce moment très solennel. C'est une question de vie ou de mort, Seigneur. Voici deux hommes, encore jeunes, avec encore en eux, Seigneur, une grande capacité de te servir. Deux soldats, des chrétiens qui ont foi en toi. Et l'ennemi a décoché une flèche. Et cette flèche empoisonnée a frappé leur corps quelque part. Et ils sont revenus. Ils se sont repliés sur l'hôpital de la grâce de Dieu pour y trouver la réconciliation, la guérison, afin de pouvoir retourner au front, le bouclier dressé pour aller au combat. Ils sont venus unir leurs forces dans la prière avec nous, Seigneur. Et nous allons affronter l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, lâche-les. Nous t'adjurons au nom de Jésus-Christ. Laisse-les partir. Ce sont des guerriers au combat. Et en tant que ton serviteur, je m'avance maintenant pour leur imposer les mains, avec foi, en croyant que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. A dit notre Seigneur, notre grand commandant-chef au combat. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Je fais ceci au nom de Jésus-Christ, que la puissance de maladie qui lie le corps de ce frère le lâche au nom de Jésus-Christ. que la puissance de maladie qui lie le corps de ce frère le lâche. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle s'en aille. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ceux que nous avons bénis. Il est écrit dans les Écritures que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit s'accomplira, tu peux avoir ce que tu as dit. Je crois que leur maladie a quitté leur corps. Maintenant, cela a été dit, alors qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, je crois que vous êtes libre. Au nom de Jésus-Christ, je crois que vous êtes libre. Amen. Est-ce que l'Église le croit aussi? Alors, qu'il en soit ainsi. Maintenant, y en aurait-il d'autres ici qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière? Voudriez-vous lever la main? Très bien. Approchons-nous de lui maintenant, tandis que vous vous imposez les mains les uns aux autres dans l'auditoire. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Dieu très saint, par la foi, nous voyons Jésus. Nous croyons qu'il est présent. Il veille sur sa parole. Et il a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Maintenant, Père céleste, fais que la puissance du Dieu Tout-Puissant touche ces gens, Seigneur, tandis qu'ils se tiennent par la main, qu'ils s'imposent les mains les uns aux autres. Selon la dernière commission que tu as donnée à l'Église, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront, ils se rétabliront. Tu l'as promis et nous le croyons. Alors maintenant, cela a été fait et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu oigne ces mouchoirs pour les malades et ceux qui ont des besoins. Et quand ils seront envoyés et posés sur les malades, alors qu'ils soient guéris. Nous lisons dans la Bible qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché saint Paul. Les esprits impurs sortaient des gens et les maladies étaient guéries. Père, nous savons que nous ne sommes pas saint Paul, mais nous savons que tu es toujours Jésus. Nous te prions d'accorder cette requête pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas si les bandes tournent déjà ou pas. Est-ce qu'elles tournent? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on commence l'enregistrement maintenant. Je crois que l'interrupteur est relevé. Bon, j'espère ne pas vous fatiguer ce soir. Je commence environ une demi-heure ou 35 minutes plus tôt. Et maintenant, c'est une leçon d'école du dimanche. Et j'ai pensé que peut-être cela ferait du bien si j'enregistrais ce que j'ai sur le cœur. Et nous allons entrer dans une nouvelle phase, un nouveau tabernacle. Tout sera nouveau. Maintenant, j'aimerais lire quelques passages des Écritures. Si vous tous aimeriez lire avec moi, je veux lire dans 1 Samuel, chapitre 8, et nous voulons commencer avec le verset 4 jusqu'au verset 10. Ensuite, pour gagner du temps, les versets 19 à 20. J'ai plusieurs feuilles ici où j'ai noté des passages des Écritures et des références, afin que, si vous avez un stylo et un crayon ou autre chose, du papier, et que vous aimeriez vous y référer ou les conserver, vous puissiez les avoir. Sinon, M. Maguire aura la bande. « Je veux dédier cette bande aux ministres, mes frères, les ministres qui m'ont mal compris, spécialement les frères des églises dénominationnelles. Et la plupart sont dénominationnelles. Mon sujet ce soir, c'est pourquoi je suis contre la religion organisée. Maintenant, je vais lire comme contexte ou comme lecture biblique afin de rendre cela vraiment conforme aux Écritures. Je veux lire dans 1 Samuel 8, 4 à 10, puis 19 à 20. Pour ce qui est de mon auditoire visible, j'espère qu'en rentrant à la maison, vous noterez ces passages des Écritures et les lirez attentivement. Quant aux frères qui écouteront la bande, j'espère que vous n'arrêterez pas la bande, quand peut-être quelque chose sera dit sur lequel vous ne seriez pas d'accord, mais que vous chercherez Dieu à ce sujet et regarderez si c'est conforme aux Écritures. Je pense que c'est très important pour nous de le faire, et aussi pour le message du jour. Je crois qu'il y a des chrétiens dans toutes les églises, et je ne parle certainement pas contre les chrétiens. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait et dit ce que j'ai dit, c'est à cause de l'inspiration du Saint-Esprit sur la parole. Maintenant, lisons dans 1 Samuel chapitre 8, depuis le verset 4, et lisons jusqu'au verset 10 inclus, pour commencer. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils, point marché, ne marchent point sur la trace. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui dominera sur eux. Samuel rapporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Maintenant, les versets 19 et 20 pour conclure. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de ses paroles. Maintenant, comme à l'école du dimanche, j'aimerais dire que nous voulons nous efforcer d'être aussi attentifs que possible à la parole. Nous savons que parfois des choses sont dites, et certaines églises, qui vont achoper quelqu'un qui a reçu un enseignement contraire à ce qu'ils entendent. Par exemple, un homme m'a dit l'autre jour, c'est un ami qui est présent maintenant. Il a dit, « Quand vous avez dit, frère Branham, avec toute la foi que j'ai eue en vous et la confiance, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas d'enfer éternel, il a dit, « J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. » Et j'ai dit, « Assurément, cet homme est dans l'erreur. Il a poursuivi, vous nous avez laissé comme ça un bon moment. Puis vous avez dit, il y a seulement une forme de vie éternelle, et cela vient de Dieu. C'est ce que nous recherchons tous, vous voyez. Et il n'y a aucun passage de l'Écriture qui dise qu'il y a un enfer éternel, parce que ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin non plus. La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, donc il n'est pas éternel. Il y a eu un temps où ça n'existait pas, et il y aura un temps où ça n'existera plus. Par contre, ils peuvent être punis là-dedans par le feu et le soufre et des abîmes de feu pendant des temps incommensurables. Mais finalement, cela se terminera, parce que l'enfer n'est pas éternel. S'il y avait un enfer éternel, il faudrait que vous ayez la vie éternelle pour vivre dans un enfer éternel. Et s'il était éternel, il aurait toujours existé. Et vous auriez toujours été en enfer. Et vous seriez toujours en enfer. Vous voyez, donc, ça ne tient pas debout. Alors, vous voyez, éternel, c'est ce qui n'a jamais eu de commencement ni de fin. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et elle se trouve en Dieu. Cela vient du mot grec « zoé », qui veut dire « la vie même de Dieu ». Et quand nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous devenons éternels avec Dieu, parce que nous avons une partie de sa vie. Cela fait de nous des fils et des filles de Dieu, et nous avons la vie éternelle. La vie qui est en nous, Dieu ressuscitera le corps par cette vie au dernier jour. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui ressuscite, parce que c'est un esprit du Christ qui était en Christ, qui vivifie nos corps et nous ressuscite aussi avec lui, pour nous faire asseoir dans la gloire et régner avec lui. Maintenant, venons-en au sujet. Bon, j'ai été ici au cours de toutes ces années, et ce tabernacle aussi est resté debout, malgré le fait que j'ai été ordonné dans une église baptiste missionnaire par le docteur Roy E. Davis, il y a environ 33 ans, ici à Jeffersonville. Bon, ensuite, je n'ai été dans l'organisation que très peu de temps, quelques mois, jusqu'à ce que l'Église fasse quelque chose de contraire aux Écritures. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas suivre ça. Alors, bien sûr, on m'a demandé de le faire, sinon, et j'ai choisi sinon. Or, il y avait une chose que je crois, c'est que ceci, c'est la parole de Dieu. Et j'ai dit à cet homme, qui était un maître enseignant, « Si vous me montrez cela dans la parole de Dieu, mais ça, il a dit, ça, c'est notre enseignement. » J'ai dit, « Mais moi, je veux que ça vienne de la parole. » Vous voyez, de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne fais pas partie d'une organisation que j'ai été contre l'organisation. En effet, je suis reconnaissant envers mes frères auxquels je m'adresse aujourd'hui de recevoir des invitations, je pense, de presque toutes les dénominations, spécialement dans les rangs du plein évangile, et même dans beaucoup d'autres églises. On m'a demandé d'entrer dans leur communauté et d'y adhérer, mais je suis resté indépendant. En effet, quelle que soit mon influence, je ne souhaite pas en user en faveur d'un seul groupe de gens. Je souhaite user de ce que Dieu m'a donné, la prière pour les malades, là où cela peut profiter à tous les enfants de Dieu dans toutes les organisations. Il ne m'a jamais dit de ne pas prier pour quelqu'un parce qu'il faisait partie de telle et telle église. Dieu juge le cœur de l'homme. Bon, tout d'abord, la raison pour laquelle je n'en ai pas fait partie et que j'ai parlé contre cela, c'est que, premièrement, je ne crois pas que l'organisation du christianisme soit conforme aux Écritures. Je crois que c'est contraire aux Écritures. Et c'est ce que je vais essayer ce soir, je vais tenter de vous prouver, par la grâce de Dieu, que c'est contraire aux Écritures. que ce n'est pas orthodoxe d'avoir quelque organisation que ce soit. Bon, d'abord, nous appelons ça religion. Le mot religion, c'est une couverture. Cela veut dire couvrir quelque chose. Eh bien, Adam avait une religion, mais il se l'est certainement faite lui-même, avec des feuilles de figuier. Et ça n'a pas marché. Il a fait sa propre théorie et a essayé de trouver une échappatoire afin de trouver le salut dans quelque chose qu'il avait fait lui-même. Et Dieu a rejeté cela, depuis Adam jusqu'à la mise en place de la dernière organisation. Cela n'a jamais été. Et par la grâce de Dieu, nous le prouverons aujourd'hui par la Bible. La religion était une couverture. Adam s'est fait une couverture de feuilles de figuier. Il l'a faite lui-même pour essayer de faire quelque chose lui-même. Mais Dieu a exigé la mort, une expiation. Maintenant, il y a vraiment une énorme différence entre la religion et le salut. Vous voyez, le salut. La religion est une couverture. Voyez, le salut est une naissance, un don de Dieu. Le salut est une naissance, un don de Dieu. Et on ne peut pas y parvenir par un homme ou un groupe d'hommes. C'est à un individu que Dieu accorde ce don. Et ces dons de vie éternelle ont été attribués par Dieu à chaque individu avant même que nous ayons un monde, selon les Écritures. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'Antichrist qui devait venir sur la terre séduirait tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Voyez, Dieu, par sa prescience, a vu qui viendrait et qui ne viendrait pas. Christ est descendu afin de pourvoir d'un moyen pour ceux qui viendraient. Vous voyez, il connaissait les autres. S'il est Dieu, réellement, il doit être infini. Et s'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Alors, vous voyez, tout cela fait qu'il est Dieu. Alors, il connaissait la fin depuis le commencement. Il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas. Et il savait qu'il y en aurait beaucoup qui viendraient. Alors, il a envoyé Christ faire une expiation pour ceux qui viendraient. Maintenant, rien de ce que nous pouvons faire n'a quelque chose à voir avec ça. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés, au passé, viendront à moi, et nul ne peut venir si le Père ne l'attire. » Voyez? Maintenant, vous voyez, tout réside dans la connaissance de Dieu. Vous dites, « Frère Branham, est-ce que j'en suis ?» Je ne sais pas. J'espère que moi, j'en suis. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Or, l'Église est prédestinée à rencontrer Dieu sans tache ni ride. Maintenant, si nous sommes dans cette Église, nous sommes prédestinés avec cette Église. Maintenant, examinez-vous par la parole. Alors, vous pourrez vérifier à quel stade nous en sommes. Bon. Donc, le christianisme organisé ne peut pas du tout donner cette assurance-là. Non. Certains disent, avancez-vous et confessez que Jésus est le Christ et soyez baptisés dans l'Église. Le diable fait la même chose. Lui aussi croit que Jésus est le Christ et il tremble. Vous voyez, c'est vrai. Dieu n'a jamais ordonné, nulle part dans l'Écriture, qu'il y ait une fois une organisation. Il n'en est aucunement question dans la Bible. Adam en a commencé une, et cela a été un échec. Ensuite, Nimrod a essayé de faire une organisation. Si vous êtes historien et que vous connaissez l'histoire de Babylone, lisez les deux Babylones d'Hislop. Cela vous éclairera beaucoup. Vous verrez que Nimrod, cet homme du péché a pris Babylone et toutes ses petites églises sœurs ou les endroits alentour, ce qui était un type de l'apostasie du christianisme de ces derniers jours. Et on a fait un endroit immense, et tous les autres ont joué, l'ont payé un tribut. Et là, il a bâti une tour, et il a essayé d'organiser les hommes entre eux, mais cela a été un échec. Cela a été un échec. Cela a été un échec. Corée, dans Nombre 16:1, si vous voulez le lire, Corée a essayé exactement la même chose. Il a réuni tous les Lévites et il a pris les quelques célébrités, les hommes haut placés, les grands hommes, les hommes saints. Lui et Dathan se sont réunis et ont dit, « Ce n'est pas juste qu'un seul homme essaie d'être au-dessus de nous tous. » Alors, ils ont essayé de commencer une organisation et ils se sont présentés devant Moïse et Aaron, que Dieu avait choisi pour ce travail. Et ils leur ont dit qu'ils en prenaient trop sur eux, que l'assemblée entière était sainte et qu'ils avaient le droit de... Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Cela ne s'applique pas au christianisme. C'est en rapport avec la guerre. Remarquez, il y a une grande différence. Vous pouvez prendre un passage de l'Écriture et dire, « Judas alla se pendre, et toi, va faire de même, si vous voulez. » Mais cela ne rend pas la chose juste. Dieu avait choisi Moïse, et Dieu avait choisi Aaron, et c'était le message de ce jour-là. Et peu importe combien l'autre côté paraissait bon, c'était en contradiction avec la pensée de Dieu. Et nous devons laisser la pensée de Dieu être notre pensée, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Et cette Bible révèle la pensée de Christ. Et tout le livre de la Révélation, qu'on appelle l'Apocalypse, est la révélation de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir comment il condamne la chose, comment il l'écarte. Nous allons y arriver dans un moment. Bien. Corée, je crois qu'il agissait avec sincérité. Je crois que cet homme n'avait pas l'intention de mal agir. Je crois que c'est par ignorance que cet homme n'a pas vu la main de Dieu agir. Il ne connaissait pas les Écritures, et c'est pour cette raison qu'il a utilisé son raisonnement. Et environ 90% du problème aujourd'hui, c'est que nous essayons d'injecter notre pensée dans le programme de Dieu. Et nous ne sommes pas du tout censés penser. C'est lui qui pense pour nous. Nous sommes censés abandonner notre pensée à sa volonté. Maintenant, vous comprenez? Corée, avec une bonne intention, a répandu autour de lui une fausse doctrine en disant à ses frères et en leur montrant par leur raisonnement que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse, le prophète, le messager, il ne l'avait pas seulement béni lui, mais il a dit que toute l'assemblée était sainte. Et alors, toute l'assemblée a le droit de faire ceci, et toute l'assemblée a le droit de faire cela. Alors, ils ont pris de braves hommes, des Lévites. Or, c'était le choix de Dieu, ce qu'on appellerait aujourd'hui les ministres. Le Lévite était le ministre du Temple. Moïse ne les avait-il pas repris pour ça? Et ici, il ne s'y est pas pris d'une manière non irrespectueuse. Il leur a dit de prendre des encensoirs, d'y mettre du feu sacré, de poser dessus l'encens et d'agiter cet encens sacré, ce qui était le commandement de Dieu. Et ils s'avancent pour former un groupe d'hommes qui prennent le contrôle de l'Église, alors que Dieu avait ordonné à un seul homme de le faire. Et quand ils ont fait ça, Moïse est tombé sur sa face, car il savait que Dieu lui avait donné la commission de faire ce travail. Dieu a dit, « Fais-les apporter ces encensoirs ici, devant le tabernacle. » Alors, quand ils se sont mis à agiter ces encensoirs pleins de feu, avec l'encens qui brûlait, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, « Séparez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux. » Car plus tard, il les a appelés pécheurs, incroyants. Le péché, c'est l'incrédulité envers la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas. Vous commettez un adultère parce que vous ne croyez pas. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas de telles choses. Il y a seulement deux manteaux. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Vous êtes contrôlé par l'un ou l'autre. Maintenant, Dieu, au commencement, était la parole, et il a été fait chair et habité parmi nous. Il était la parole, il est la parole. Et quand Dieu habite en vous, c'est la parole de Dieu qui habite en vous. C'est là que vous pouvez ponctuer tout ce qu'il dit d'un « Amen ». C'est Dieu habite en vous. Maintenant, si vous remarquez, ces hommes innocents qui tenaient des encensoirs, le feu sacré dans leurs mains, Dieu a ouvert la terre et les a engloutis. Il les a séparés de Moïse parce que Moïse s'était séparé d'eux. Et Moïse a averti l'assemblée, « Ne vous frottez pas à ce genre de groupe. Éloignez-vous d'eux. » Maintenant, vous connaissez les Écritures. Lisez les chapitres 16, 17, même 18, et vous le verrez. Séparez-vous de ces pécheurs qui ne croient pas. Sortez du milieu d'eux, car ils se dirigent vers la ruine avec tout ce qu'ils ont. Et quand la terre s'est dérobée sous les pieds de ces hommes qui tenaient ce feu sacré. Des hommes innocents, séduits par des hommes. C'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes innocents qui tombent dans le piège des traditions, qui tiennent la sainte parole dans la main et qui prétendent prêcher ce qu'elle contient. Je viens de voir une certaine expression apparaître sur le visage d'un ministre méthodiste, qui était ministre méthodiste jusqu'à dimanche soir dernier. Et quand il a regardé, je suppose que ça représente beaucoup pour toi, frère, d'être sorti. Bon, vous voyez, il tenait ses encensoirs, le feu qui, en brûlant, répandait une odeur agréable devant Dieu. Et ses mains qui tenaient ça. Pourtant, ils ont péri, l'encensoir à la main, parce qu'ils essayaient de faire quelque chose avec sincérité, tout en étant contre la parole de Dieu, parce qu'ils essayaient de former une organisation. Ils avaient dit, « Tu en prends trop sur toi. Qui es-tu pour dire que tu as toute la parole de Dieu ?» Ils n'ont pas reconnu que Moïse était le messager de cette heure-là. Voyez ? Il avait « Ainsi dit le Seigneur ». Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Il avait le message et les gens ne l'ont pas reconnu. Moïse était en harmonie parfaite avec l'ainsi dit le Seigneur. Certainement. Très bien. Maintenant, nous voyons la même chose aujourd'hui. Des hommes bien, de grands hommes, de précieux hommes qui essayent de prêcher la parole de Dieu qu'ils tiennent à la main par une tradition humaine. Ils retranchent ici et ils retranchent là. Et ils en font ceci et devenez membre de l'Église et changez d'affiliation. Et spirituellement, ils meurent cette parole à la main. Voyez, ils ne pouvaient pas croire le messager de Dieu ni son message pour ce jour-là. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi un grand Dieu ne voulait pas travailler avec tout un groupe de gens et qu'il confiait cela à un seul homme. À combien d'entre eux ai-je parlé aujourd'hui qui disaient « Qu'allons-nous faire, frère Branham ? Nous savons que vous avez raison, mais qu'allons-nous faire ? L'organisation nous mettra dehors. Nous n'aurons aucun endroit où aller. Je les plains, mais il y a un endroit. » Vous dites, « Eh bien, nous mourions de faim. » David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est exactement sur une base identique qu'ils ont rejeté Jésus. Ils étaient tellement absorbés par leur dénomination, leur saint sacrificateur, leur saint bâtiment, leurs saintes églises et leur saint temple, qu'ils n'ont pas vu Dieu dans son temple humain. Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, ils étaient tellement absorbés par cela. Ces hommes étaient tellement absorbés par l'idée que Dathan et les autres avaient raison. Nimrod était tellement absorbé par la pensée de pouvoir réaliser quelque chose qui placerait les gens au-dessus de la colère de Dieu. Adam était sûr que s'il couvrait sa nudité, Dieu ne la verrait pas. Vous ne pouvez pas la couvrir. C'est Dieu qui doit la couvrir. Voyez, voyez, c'est le programme de Dieu qui la couvre, pas le vôtre. Cela a toujours été comme ça. Ils ne voient pas Jésus dans son temple, Dieu manifesté dans la chair. Aujourd'hui, cela me fait de la peine de voir que les paroles de la Bible ont été pareillement mutilées par les traditions. Et des gens au cœur honnête se tiennent là à écouter cette parole, en sachant que c'est la vérité. Mais ils n'osent pas bouger, parce que leur tradition leur enseigne autre chose. Alors, frères, lavez les cruches et les plats, allez-y. Mais quant à nous, et quant à moi et ma maison, nous prenons Christ, la parole. Voyez ? Prenons un instant Jean 3. Nicodème, un docteur et chef d'une grande dénomination appelée le Sanhédrin. Ils s'étaient réunis et avaient créé leur tradition. Il y avait celle des pharisiens et celle des sadducéens. Et ils avaient leur dénomination à cette époque-là, leur différence. Et alors cet homme était un docteur, un chef de ce grand Sanhédrin, un enseignant admirable. Il pensait connaître les Écritures. Il les connaissait d'après leur tradition. Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous, par votre tradition, vous avez annulé les commandements de Dieu. » Vous voyez, à cause de leur tradition, qu'est-ce que c'est? Ils placent leur propre interprétation au-dessus de la parole, plutôt que de la laisser telle qu'elle, ce qu'elle dit. Ils disent que cela ne veut pas dire ceci. Avez-vous remarqué? C'est la même voix que le diable a utilisée avec Ève pour commencer la première organisation. Voyez? Certainement que ce serait de cette manière-ci. Dieu ne ferait pas ça, tu sais. Vous voyez? C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, nous remarquons que ce chef est venu vers Jésus. Maintenant, avant toute chose, il est venu à la recherche de la vie éternelle. Il est venu à la recherche du salut. Pourtant, un homme de son rang, un docteur en Israël est venu vers un homme dont il ne nous est fait mention nulle part qu'il ait fréquenté l'école un seul jour. Un homme très âgé, un vieux sacrificateur, un sage est venu vers un homme jeune. C'était des aristocrates. Un homme riche est venu vers un mendiant qui n'avait pas de lieu où reposer la tête pour lui demander le moyen d'accéder au salut et à la vie. En premier lieu, ceux qui faisaient partie de ce Sanhédrin, comme l'a confessé Nicodème, avaient vu en Jésus quelque chose que les autres hommes de leur organisation n'avaient pas. ils avaient vu qu'il y avait quelque chose en lui, parce qu'il a dit, « Rabbi, nous savons que tu... » Nous, oui, ils ne voulaient pas le confesser, parce qu'il serait mis à la porte, voyez. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons cela. Oh là là, l'organisation. Maintenant, nous remarquons que Jésus était une manifestation de Dieu. En effet, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent dans cet homme. Il était la lumière de ce temps-là. Il était le témoin de Dieu. C'est aussi ce que Corée a vu en Moïse. En ce temps-là, il n'avait pas d'homme comme Moïse. Il était le témoin divin de Dieu de ce temps-là, pour ce qui est de la puissance de Dieu. Corée et son groupe l'ont vu en Moïse. Ils ont compris que cela ne pouvait pas être Moïse. Moïse ne pouvait pas ouvrir la mer Rouge. Moïse ne pouvait pas envoyer des plaies sur la terre. C'était Dieu en Moïse. Et parce que Dieu s'était représenté dans un témoin ou une lumière de ce temps-là, ils n'ont pas reconnu cela. Corée a voulu constituer tout un groupe d'hommes, faire entrer n'importe quoi. Voilà à quoi ça sert, l'organisation. C'est pour faire entrer toute la racaille qu'il y a et appeler ça le christianisme. On envoie un garçon dans une école qui ne connaît pas plus Dieu qu'un Hottentot ne connaît une nuit égyptienne. On l'envoie là-bas et on lui donne une instruction, on lui apprend la psychologie, on lui donne un doctorat et un diplôme de docteur ou une licence en lettres ou quelque chose comme ça. Et on l'envoie prêcher l'évangile alors qu'il n'a jamais été sauvé. Qu'il nie la naissance virginale et la résurrection. Il nie la guérison divine, nie la puissance de Dieu. Ni les principes mêmes pour lesquels Jésus est mort, ni que Marc 16 soit inspiré, ni que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, alors que c'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles. Ni Acte 2.38 et ni les autres passages des Écritures qui sont inspirés. Ils prennent une tradition humaine dont ils ne savent rien et ils rabâchent cela. Et quand vous leur dites la vérité et que vous leur montrez la vérité, ils ont honte de bouger à cause de leur organisation. Corée a fait la même chose. Il avait vu Dieu en Moïse. Il avait vu que c'était l'agent de Dieu qui travaillait à travers lui. Et Nicodème a vu Dieu en Christ. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Nicodème était déjà dans l'organisation, essayant d'en sortir. Corée était en dehors, essayant d'en faire une pour y entrer. C'était ça la différence. Nicodème essayait de trouver le salut, de sortir de la chose. Il s'y trouvait depuis son enfance. Il en était fatigué. Il voulait être sauvé. Mais Corée essayait de se faire une place où il pourrait être un gros bonnet. C'est comme ça avec les gens aujourd'hui. C'est le problème avec le christianisme. Nous avons tellement d'imitations mensongères. Et nos pentecôtistes, pardonnez-moi l'expression, sont lamentables par rapport à ça. Des comparaisons charnelles. Que Dieu suscite un homme et lui donne quelque chose. Et tout le monde dans le pays va essayer d'imiter cette personne. Ne vous rendez-vous pas compte que vous tuez votre propre équipe? Quand vous jouez au football, et la grâce, comme Paul l'aurait dit, courons avec persévérance dans la carrière. L'homme qui a le ballon, ne le lui prenez pas des mains, essayez de le protéger. Mais au lieu de ça, parce qu'il ne fait pas partie de votre organisation, vous essayez de le lui enlever. Un homme qui est si maladroit, qu'il ne pourrait pas, qu'il trébucherait sur les fleurs d'un tapis. Puis, il essayerait de vous l'enlever. C'est vrai. Bon, je veux dire, spirituellement parlant, pardonnez-moi, Eh bien, s'il s'achoppe une petite chose comme Acte 2.38, c'est sûr qu'il va tomber. Si jamais il s'achoppe à Marc 16, comment va-t-il faire pour y arriver? Voyez? Des leçons de Christ vraiment importantes. La chose même qui était discutée au Concile de Nicée, il s'y achoppe encore après toutes ces années. Il essayait, courait, essayait de faire une organisation pour y entrer. Et Nicodème, qui y avait été, essayait d'en sortir. Nicodème a été accepté et il est sorti. Corée y a péri dans ses efforts. Il a péri par ses propres efforts. Oh là là! L'organisation dans laquelle Nicodème se trouvait savait que Christ était envoyé de Dieu. Il l'a dit. Nicodème, ici au chapitre 3, le confesse. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et le même groupe, à cause de leur organisation, l'a appelé Belzébul, à cause de sa puissance pour chasser les démons, et a dit « Il séduit nos gens avec sa doctrine. » C'est la même chose aujourd'hui. Séduire quoi? Jésus a dit, je fais seulement ce qui est agréable au Père. Je garde seulement les paroles de Dieu, parce qu'il était la parole. Il ne pouvait pas agir autrement que par la parole. Mais à cause de leur organisation, à cause de leur manière de faire, ils avaient lié les hommes. Dans leur cœur, ils le savaient, mais leur organisation ne voulait pas qu'ils observent cela. Alors, pour préparer un moyen d'échapper, pour empêcher les gens de quitter l'organisation, tous vont après lui, pour empêcher les gens de quitter l'organisation et de suivre la vérité de Dieu, alors qu'il était la vérité, je suis la vérité, la lumière, pour les empêcher de suivre cela, ils ont dit qu'il séduisait les gens. Pensez-y, un homme qui savait dans son cœur qu'il était Dieu, que Dieu était en lui. Personne ne peut dire ces choses ou faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Sachant cela, disant cela et confessant cela, et ensuite faisant volte-face et l'appelant Belzébul et quelqu'un qui séduit les gens, leur fidèle, avec sa doctrine. Oh là là, Nicodème savait qu'il était prophète. Maintenant, c'en était un dans l'organisation qui aimait Dieu suffisamment et craignait Dieu suffisamment et qui reconnaissait, d'après l'Ancien Testament, que cet homme avait les qualifications et était attesté et confirmé comme étant un prophète envoyé par Dieu. Cet homme, je veux l'honorer, bien qu'il soit venu de nuit. Il y est arrivé. Il est bien meilleur que beaucoup de nos docteurs aujourd'hui qui ne veulent pas venir du tout. Nicodème est finalement arrivé. Alors, ne le condamnez pas si vous n'êtes pas encore arrivé. Nicodème savait qu'il était prophète. Alors, il a craint Dieu. Il n'a pas voulu que cet homme lui échappe, la lumière de ce jour-là. Peu importait que cela ait été en contradiction, que son organisation ait dit que cela était en contradiction. Il avait vu Dieu confirmer cet homme et il savait qu'il était prophète. Et s'il était prophète, la parole du Seigneur vient au prophète. Et il savait de quoi il parlait. Voyez ? Alors, il est allé vers Jésus. Il a voulu savoir comment recevoir le salut. Si cet homme était prophète, la parole de Dieu était avec lui. Il connaîtrait le chemin du salut. Mais ce que Nicodème a dû apprendre, c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui, des dénominations de ce jour-ci, doivent apprendre. Ce que Nicodème aurait dû savoir, c'est ce que les gens aujourd'hui auraient dû savoir de ces dénominations. Il était plus qu'un prophète. Il est venu vers lui pour découvrir, pour qu'il lui indique le chemin qui conduit à la vie. Et Jésus lui-même était la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alors, il n'était pas, ne devait pas venir pour essayer de recevoir un enseignement. Il devait venir pour accepter la personne. C'est ce qu'il en est ce soir. Le chef, la pierre angulaire, est à nouveau rejeté. Qu'est-ce que le chef, la pierre angulaire? C'est la parole, bien sûr. Christ, il est la parole. Il a dû apprendre quelque chose. Il a pensé, eh bien, bon, cet homme est prophète. Il est juste un prophète. Alors, avez-vous remarqué, Jésus n'a pas du tout répondu à sa question. Il l'a simplement réprimandé pour son aveuglement. Plus qu'un prophète, il était la parole et la lumière resplendissante de la parole. Il était Dieu qui resplendissait par l'entremise d'un agent, démontrant que c'était Dieu dans l'homme. Il était la parole. 1 Jean chapitre 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Et ici se trouvait la parole de Dieu qui resplendissait dans cet homme frêle. Et cela a aveuglé l'organisation. Mais il vient prendre des individus. Plus qu'un prophète, il était la parole. Il est la vie. Pas, il n'a pas eu à vous donner un enseignement sur une vie à venir. Il était lui-même cette vie. Il était la vie. Il était la lumière. Il était la vie. Il était la vie éternelle. Elle était en lui, et lui seul est le donateur de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Alors vous ne pouvez pas avoir seulement l'enseignement de la parole à son sujet. Vous devez l'avoir lui. Vous dites, « Oh, vous tous, asseyez-vous, apprenez cette Bible et tous les mots grecs, les définitions, la ponctuation et tout le reste. » Et ils ne connaissent absolument rien de Dieu, voyez? Non, celui qui a la forme, celui qui a le plomb, c'est celui qui a le Fils, celui qui l'a lui, la personne, c'est lui qui a la vie. Nicodème savait qu'il connaissait quelque chose de la vie, mais il ne savait absolument pas qu'il était la vie éternelle. Voilà ce qu'était l'homme à qui il parlait, le messager, la lumière du jour, la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il a été envoyé chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement organisés, occupés à laver des cruches et des plats, et à suivre des traditions, qu'ils n'ont pas reconnu la parole faite chair. Ça se répète encore. L'histoire se répète de temps à autre. Oui, il savait qu'il connaissait quelque chose de la vie, mais Nicodème ne savait pas qu'il était la vie. C'est comme ça aujourd'hui. Tellement de gens essayent de faire de Jésus, un grand docteur. Ils essayent même de dire qu'il était prophète. Mais quand vous essayez de dire qu'il était Dieu, ça, c'est trop, voyez? Mais il était Dieu. Il est Dieu. Et il sera toujours Dieu. C'est tout, c'est vrai. Remarquez, il n'a jamais dit à Nicodème, quand il est venu vers lui, il n'a jamais dit, « Eh bien, Nicodème, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es un docteur en Israël. J'ai une idée, tu recherches la vie éternelle. Peut-être devrais-tu parfaire ton savoir. Ta prononciation n'est pas correcte. Ridicule. Ou bien, peut-être devrais-tu aspirer à une plus haute fonction dans ta dénomination pour avoir la vie éternelle. » C'est ce que tant de gens ont essayé de faire aujourd'hui. Ah oui, une plus haute fonction. Ils veulent passer de pasteur à surveillant général, ou à évêque, ou quelque chose comme ça. Ça n'a absolument rien à voir avec Dieu. Observez ce qu'il a fait devant une telle personne. Il lui a reproché de ne pas reconnaître l'heure dans laquelle il vivait. Tu veux me dire que tu es un docteur en Israël? Et tu ne peux pas comprendre ces choses? Quand il a dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau? Eh bien, a-t-il dit, moi, un homme âgé, rentré dans le sein de ma mère? Il a dit, et tu es évêque, cardinal, surveillant général dans l'église pentecôtiste. ou quelque chose d'autre, un homme important dans l'organisation, et tu ne connais pas l'Écriture? Oh, nous avons Moïse. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, parce que c'est lui qui a parlé de moi. Voyez? Mais pas selon leur tradition, leur organisation. C'était différent. Mais Moïse a bel et bien parlé de lui. Il était celui dont Moïse a parlé. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu cela. Pourquoi? Ils s'étaient tellement liés par des traditions qu'ils n'ont pas reconnu cela. Eh, mes frères qui lisent, qui prennent cette bande, ne l'arrêtez pas maintenant. Juste un instant, regardons cette chose bien en face. Je vous aime, vous êtes un berger, et je n'essaie pas d'être un moi je sais tout. Si je donne cette impression, alors arrêtez la bande et priez pour moi. J'essaie seulement de vous apporter quelque chose qui est vrai. Que cela ne vous échappe pas. Maintenant, je respecte l'ordre établi par les hommes et tout. Mais quand vous faites ces organisations, regardez les pharisiens. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec les sadducéens. Parce que les sadducéens ne croyaient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection ou autre chose. Alors que les pharisiens possédaient les deux. Et ils se faisaient la guerre. Maintenant, les unitaires croient une chose, les trinitaires en croient une autre, et les méthodistes une autre, et les presbytériens une autre, et vous tracez de petites lignes de démarcation. Et qu'est-ce que vous avez? Une séparation au niveau de la communion entre les frères. À propos, nous allons trouver cet endroit dans la Bible dans un instant. Ce que c'est, ce que Dieu dit que c'est. Bon, non, il ne lui a jamais dit de parfaire son instruction. Il lui a simplement reproché de ne pas connaître la chose authentique. Tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Si tu ne comprends pas quand je t'ai parlé des choses terrestres, pensez un peu. Un docteur, un rang élevé dans une église orthodoxe, un évêque, un cardinal, et tu ne peux même pas comprendre la conception enfantine des choses naturelles que je te présente, comment vas-tu comprendre les choses spirituelles du ciel? Mais un vieux pêcheur ignorant, qui ne pouvait même pas écrire son nom, a compris cela. Vous voyez, et il a été placé à la tête de l'église à Jérusalem. Pierre, voyez? Oh, tous ceux que le Père m'a donné viendront. Voyez, ils voient cela, ils croient cela, ils exploitent cela, sachant que rien ne va les retenir. C'est comme ce fermier. Ce n'est pas bon de faire une plaisanterie, mais c'est pour illustrer. On raconte qu'un fermier avait fait couver une poule et il n'y avait pas assez d'œufs, alors il a placé sous elle un œuf de canard. Quand le petit canard a éclos, c'était la créature la plus drôle que ses poussins aient jamais vue. Il avait une drôle de tête allongée et il avançait en caquetant plutôt qu'en gloussant. Et tous les poussins mangeaient et picoraient dans la basse-cour. Mais ce n'était pas tout à fait un régime alimentaire pour lui. Alors un jour, la vieille poule l'a conduit derrière la grange pour attraper quelques sauterelles. Et derrière la colline, il y avait un lac. Voilà que le vent s'est mis à souffler sur le lac. Et il a senti l'odeur de l'eau. C'est dans sa nature. La vieille poule a dit, « Cote, 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 reviens !» Il a dit, « Coin, coin, coin !» en se dirigeant tout droit vers l'eau. Pourquoi? Au départ, il était un canard. Peu importe combien la poule gloussait, il était quand même un canard. Et c'est comme ça pour un homme qui est prédestiné à la vie éternelle. Quand il voit la lumière de Dieu, il n'y a pas suffisamment d'organisation dans le monde pour l'y faire retourner par leur caquetage. Non. Pourquoi? C'est sa nature. Il s'est peut-être alimenté longtemps de la même manière qu'eux, en mangeant leurs ordures et en participant à leurs fêtes. Mais il est arrivé à un endroit où il a trouvé quelque chose de différent, qu'il reconnaît. Mes brebis connaissent ma voix, a dit Jésus. Elles ne suivront pas un étranger. Il se peut qu'ils suivent quelque chose d'étrange, mais au fond d'eux, il y a quelque chose de différent. Faites-leur entendre la vérité une fois et observez-les. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Oui, il lui a reproché de ne pas savoir. Tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, l'homme naturel, je veux pour que vous remarquiez quelque chose ici. Il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, la vie naturelle, si nous avons la vie naturelle, pour être actif dans cette vie naturelle, dans les choses naturelles, il faut que nous ayons une naissance naturelle. On ne vous arrache pas un arbre quelque part, vous voyez, pour vous repiquer ailleurs, d'une certaine manière. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ce doit être une vraie naissance, une naissance naturelle, pour vous rendre actif, afin que vous puissiez avoir les cinq sens, la marche, la parole, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le mouvement, tout ça. Alors vous êtes un être humain, et vous avez accès à toutes ces choses parce qu'elles font partie de la vie naturelle. Et dans une telle naissance, parfois nous devenons très sages, selon la sagesse du monde, ou les affaires du monde, nous devenons présidents et de grands érudits, des maîtres mécaniciens, des savants et tout le reste. Et vous savez depuis toujours que, depuis le commencement, ce sont les enfants de Caïn qui ont eu cette sorte de sagesse, pas ceux de Seth. Eux étaient d'humbles gardiens de moutons. Les enfants de Seth étaient des gens pieux. Par contre, les enfants de Caïn ont toujours été intelligents, haut placés, des scientifiques, des docteurs et de grands hommes. C'est vrai, la Bible dit, vous le savez, elle l'enseigne, est très religieux, mais ils ont péri à la fin. Nous devenons sages en allant à l'école, en recevant des bourses et tout. Nous devenons très sages, intelligents, et nous pouvons faire des choses et dire des choses, et parfois parler mieux qu'un homme qui est rempli de l'esprit. Jésus n'a-t-il pas dit, « Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du royaume ?» C'est sûr, parce que, par leur intelligence, ils peuvent parler, être plus malins et parler mieux, et prendre les Écritures, les tordre, pour leur faire dire des choses qu'elles ne disent pas. Oh, ce n'est pas exactement ça qu'elles veulent dire. Quand un homme dit cela, éloignez-vous de lui. Dieu veille sur sa parole. Vous savez, la Bible dit, c'est écrit exactement comme cela doit l'être. Voyez? Mais c'est dit de manière à induire en erreur ou faire s'achoper les sages. Elle est tellement simple, c'est pour ça qu'ils s'y achoppent. Voyez? Très bien. Toute cette sagesse et les choses qu'ils peuvent accumuler. Mais cependant, ça vient de... Cette naissance vient d'en bas, de cette terre. Ça vient de la terre et c'est contraire à l'Esprit de Dieu. La première naissance, pour nous rendre actifs ici, fait de nous des mortels. À cause du péché commis dans le jardin, qui a fait que l'homme vienne au monde par une femme. Et l'homme né de la femme, sa vie est courte, mais l'homme né de Christ est éternel. Job a dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Remarquez, mais l'homme né de Christ doit naître d'en haut. Bon, mais l'homme né de la terre, il devient sage et peut presque surpasser les autres en intelligence. Regardez comment le diable était rusé. Il a berné tous les sacrificateurs qui sont venus sur la terre. Certainement qu'il l'a fait. Il les a bernés. Il le fait encore. Oui, certainement qu'il l'a fait. Il était intelligent. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un à sa hauteur, qu'il a vaincu. Et la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous appuyer simplement sur lui. Il l'a déjà vaincu. Voyez? Mais elle vient d'en bas. Et elle, cette sagesse que l'homme accumule pour prouver et montrer toutes ces choses, pourquoi l'homme devrait faire ceci et pourquoi l'homme devrait faire cela, elle est en contradiction avec Dieu et inimitié, la pensée charnelle, contre lui. L'Écriture le dit, c'est vrai. Peu importe avec quelle intelligence ils peuvent tordre cela, je veux que quelqu'un me montre où Dieu a déjà eu une organisation ou a déjà ordonné d'en faire une. Au contraire, il la condamne ici dans la Bible. Peu importe combien ils peuvent essayer d'être intelligents, cela va à l'encontre. Comment la sagesse peut se tenir là, vous dépasser dans l'argumentation et vous faire vous sentir petit comme ça en vous parlant de ces choses, alors que c'est contraire aux Écritures. Quelqu'un m'a dit, « Frère Branham, j'ai quelque chose contre vous. » Il a dit, « Vous êtes un Jésus seul. » J'ai dit, « Non, je ne fais partie d'aucune organisation. » Le surveillant général d'un certain État a envoyé l'autre jour, il disait, « Quelqu'un m'a dit que vous étiez un Jésus seul, Frère Branham. » J'ai dit, « Pas du tout, c'est faux. » Il a dit, « On m'a dit que vous croyez à l'amour libre, que les hommes devraient quitter leurs femmes et partir à la recherche de... » Bon, vous voyez, ce ne sont que des mensonges du diable, vous le savez. J'ai dit, je suis absolument contre de telles choses qui sont contraires aux Écritures. Je crois à la sainteté et à la pureté. Je crois qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'ils sont en vie. Vous ne devriez pas la prendre sans avoir premièrement prié. Et les Jésus seuls, le groupe des Jésus seuls, je n'ai rien contre eux. Pour moi, ils sont tout aussi bons que n'importe quel groupe. Mais ils baptisent mal. Ils baptisent pour la régénération. Je crois que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, pas par l'eau. J'emploie effectivement le nom de Jésus-Christ pour le baptême. Et il n'y a aucun autre passage de l'Écriture dans la Bible pour qui dise que c'est contraire. Il n'y a personne de la Bible qui ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un vienne me montrer un seul endroit où une personne a été baptisée comme ça. Alors, si c'est contraire aux Écritures, arrêtez de le faire. Vous dites, ça ne change rien. Pour Paul, oui. Il leur a ordonné d'être baptisé de nouveau au nom de Jésus-Christ et ensuite de recevoir le Saint-Esprit. Et Paul a dit, si un ange du ciel, Galates 1:8, venait vous enseigner un autre évangile que celui qu'il avait enseigné, qu'il soit anathème. Vous voyez, c'est la tradition. J'ai parlé à un grand homme il n'y a pas longtemps. Il a dit, Frère Branham, je ne peux pas. Je sais que c'est vrai. Il a dit, mais que puis-je faire par rapport à ça? J'ai dit, obéissez-y. Il a dit, mais j'ai du prestige auprès des gens de chez nous. J'ai dit, mais moi, je veux du prestige auprès de Dieu. Alors, j'obéis à sa parole. Il faut choisir. Voulez-vous servir Dieu ou les hommes? Mais ils prennent leur organisation, y incorporent ces déclarations et s'y conforment. La toute première fois que cela a été employé, c'était dans l'Église catholique romaine. C'est vrai, je veux que quelqu'un me montre autre chose. Je lis aussi des récits historiques, vous savez. Alors souvenez-vous, c'est un baptême catholique. Et tous ceux qui ont été baptisés comme ça ont été baptisés dans la communauté catholique. Je le prouverai avant la fin de la soirée, si le Seigneur le veut. C'est vrai. C'est pourquoi il faut que vous reveniez, pas les Jésus seuls. Or, il y a plein d'hommes remarquables dans l'Église de Jésus seul, plein d'hommes remarquables dans les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église méthodiste, baptiste, presbytérienne et catholique. Mais aucune d'elles n'est l'Église, pas une seule. Il y a dedans des individus qui font partie de l'Église, mais ce n'est pas leur dénomination qui fait de l'Église, comme les hommes essayent de le faire. C'est faux. Dans une minute, dans quelques instants, nous vous donnerons quelques passages des Écritures. Oui, pour être actif sur la terre, on doit passer par une naissance naturelle pour être actif. Et une telle naissance nous rend sages, comme je l'ai dit. Voyez, on devient intelligent. L'intelligence, notre intellect nous donne ça. Mais souvenez-vous que cette naissance, son point de départ même, est contraire. Elle est terrestre et contraire à la parole de Dieu. Insensée pour Dieu et son plan. Elle ignore le plan de Dieu. Sinon, Nicodème en aurait su plus que Jésus. Voyez, es-tu un docteur en Israël? Voyez, vous voyez où vont vos dénominations, où vont vos grands hommes intelligents qui se rencontrent pour élaborer leurs plans et les établir? Laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que Dieu envoie une lumière sur la terre pour éclairer un point de l'Écriture, ils s'empressent de faire quelque chose avec cela. Et dès que cet homme est parti, ils en font une organisation. Et dès qu'ils organisent ça, je veux demander à tout historien, présent ici en ce moment, ou qui écoute la bande, de venir me montrer, En tout temps, quand les hommes ont organisé une église, elle est morte aussitôt et ne s'est jamais relevée. C'est en opposition avec Dieu. C'est en opposition avec les Écritures. C'est pour cette raison que je suis contre cela. Tout ce que Dieu est contre, si Dieu est en moi, alors je suis contre tout ce que Dieu est contre. Son ennemi est mon ennemi. Son église est mon église. Sa vie est ma vie. Il a donné sa vie. Il est devenu moi afin que par sa grâce, je puisse devenir comme lui. Voyez, nous avons échangé nos places. Il est devenu un pécheur comme moi et est mort pour moi, à ma place, afin que je puisse être un fils de Dieu, comme lui. Maintenant, vous voyez à quoi vos dénominations en sont déjà arrivées? Nous n'avons pas encore commencé. Sage, selon la sagesse du monde, mais morte par rapport au plan de Dieu. Maintenant, regardons le passé. Arrêtons-nous un instant. Adam était en opposition avec le plan de Dieu parce qu'il avait désobéi à la parole. Il a essayé de se faire une couverture, une religion. Cela a échoué et cela a toujours échoué, ce que l'homme essaye de faire. Nimrod était dans l'erreur. Corée a péri. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Une organisation. Et après cela, quand ils se sont finalement organisés, Jésus les a trouvés morts. Il a dit, « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Voyez, il a dit, « Vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Il a dit, « Tu es un docteur en Israël ?» Et tu ne comprends même pas ce qu'est la nouvelle naissance? Alors que si vous étiez resté éloigné de ces traditions, que vous étiez resté attaché à la parole, vous auriez su que je venais dans le but de donner aux hommes la nouvelle naissance. Vous auriez connu mon jour. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu moi. Moïse a parlé de moi et a dit que je viendrais. Et me voici. Et si je ne fais pas les choses que Moïse et les prophètes ont dit que je ferai, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas me croire en tant qu'homme, et si vous ne pouvez pas me croire parce que je suis un homme qui fait les œuvres de Dieu, croyez les œuvres parce qu'elles témoignent de ce que je fais. Voyez? Mais alors, comme aujourd'hui, s'il avait vécu sur la terre aujourd'hui, les assemblées de Dieu en auraient un, les unitaires en auraient un, tout le monde aurait un Jésus. C'est sûr, il faut que leur dénomination porte le ballon. Voyez, sinon, ça ne va pas. Cela divise les frères. Je me souviens d'un jeune garçon qu'on appelait le petit David. C'est un homme marié maintenant. Je pense qu'il a une famille. Je me souviens quand il a débuté. Je suis allé à Saint-Louis. J'avais entendu parler de tout jeune prédicateur dont l'un d'eux est monté sur l'estrade et a dit, « Jésus était un petit garçon, né dans une crèche. Maman, c'était quoi la suite ?» Mais pas ce jeune garçon-là. Il a jeté sa veste. Il a pris un passage et a prêché. Mais qu'est-ce qu'il était? Il se trouvait qu'il était des Jésus seuls. Son père, M. Walker, faisait partie des Jésus seuls. Eh bien, les assemblées n'ont pas pu supporter ça. Il a fallu qu'elle se trouve un petit David. Eh bien, il a fallu que les autres se trouvent un petit David. Une fois, ce jeune garçon tenait des réunions en Floride. Il m'a téléphoné pour me demander de venir l'aider. Frère Moore et moi avons lu les deux premières pages du journal. Il n'y avait rien que des petits David. Chaque église avait un petit David. Oh, miséricorde! Eh bien, si un groupe des anciens de Dieu avait reconnu le don de ce petit garçon, il aurait fait entrer des milliers d'âmes dans le royaume. Vous voyez, il lui avait dit d'oublier sa tradition à propos des hommes et des choses comme ça. Dieu avait placé un don dans sa vie. Utilisez-le. Quand la guérison divine est apparue pour la première fois, tout le monde sentait quelque chose dans la main et pouvait sentir les maladies par l'odorat. Et, oh là là! Pourquoi? Il fallait qu'il le fasse. Leur organisation était en perte de vitesse. Vous voyez, vous avez mis vos organisations avant le plan de Dieu. Vous pensez qu'elle l'est. Mais Dieu fait en sorte que son Église continue à avancer quand même. C'est un corps mystique. Vous n'y adhérez pas. Vous y naissez. Sage selon la sagesse du monde, mais morte selon les plans de Dieu. Alors, dites-moi. Vous pouvez leur dire et leur prouver qu'elles sont dans l'erreur, d'après la parole de Dieu et la promesse. Cependant, elles ne le voient pas. Je peux m'asseoir, prendre la parole et vous montrer que la dénomination est dans l'erreur. Je peux vous montrer que les credos que vous avez aujourd'hui sont faux. Vous voyez, ces credos d'église. Montrez que c'est faux. Ils diront, eh bien, on nous a enseigné à croire ceci. Vous voyez, à mon avis, c'est de la chair, si vous savez de quoi je parle, de la chair à canon. Oui, c'est vrai. Ils ne voient pas. Jésus a dit, vous ne voyez pas, sinon vous viendriez à moi pour avoir la vie. Il y a eu Nicodème, un homme honorable, un grand homme, un évêque dans son église, un homme renommé, aimé de tout le monde. Il est venu vers Jésus et il ne connaissait rien de la vie, rien du tout. Il ignorait tout d'elle quand Jésus l'a réprimandé pour ça. Mais il était suffisamment sincère pour venir. Les autres n'ont même pas voulu venir. Ils se sont tenus à l'écart avec les souverains sacrificateurs et les évêques un tel et un tel. Vous voyez, ils se sont tenus à l'écart avec eux, préférant accepter les traditions de leurs anciens plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Bon, vous pouvez le leur dire, ils n'écoutent pas. Vous pouvez bien, pourriez-vous imaginer, je veux vous demander quelque chose, je ne veux pas être sacrilège. Maintenant, vous, les frères, qui écoutez la bande, je ne veux pas être sacrilège. Pourriez-vous imaginer que j'aille ici quelque part et que le nœud d'un arbre me demande, comment au monde fais-tu pour te déplacer comme tu le fais? J'ai la vie, je suis un nœud de cet arbre. Il peut prouver qu'il a la vie, mais ce n'est pas la bonne sorte. S'il veut se déplacer, la seule façon pour lui de se déplacer, de voir, de goûter, de toucher, de sentir et d'entendre, s'il pouvait parler et me le dire, me demander ça, la seule façon, il faudrait qu'il naisse de la même façon que moi. Amen. Il ne le comprendra jamais autrement. Mais s'il naît de la même façon que moi, alors il connaîtra les choses que je connais. Amen. Oh là là. Oui, monsieur, vous ne pouvez pas dire au nœud d'un arbre comment nous nous déplaçons et sommes actifs. Il faudrait qu'il reçoive la même vie que nous pour le comprendre. C'est pareil pour l'esprit. La même chose s'applique à l'esprit. Sinon, vous ne pouvez pas le comprendre. Ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre. Venez premièrement à lui. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Il a dit, c'est-à-dire le comprendre. Il faut que vous naissiez de nouveau pour le connaître. Eh bien, vous dites, je suis né de nouveau. Et vous niez la parole? Comment pouvez-vous l'être? C'est votre propre vie qui vous le confirme. Le groupe auquel vous vous êtes rattaché. Les oiseaux d'un même plumage. Voyez? Attendez que nous arrivions à ces choses dans quelques minutes. Voyez? Cela vient par l'esprit. Comment pouvez-vous parler de choses de l'esprit aux gens qui ne sont pas nés de l'esprit? Il faut être né de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Jésus a dit, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voyez? Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Ils ne peuvent pas vous le dire. L'homme qui est né de l'esprit n'a pas de pensée propre. Il laisse Dieu réfléchir pour lui. Pensez-vous que je pourrais me tenir ici, sur l'estrade, avoir mes propres pensées et dire à un homme, là au fond, il s'appelle Jean un tel, il vient de tel endroit, il a fait ceci, il a épousé une autre femme il y a longtemps, il y a 20 ans, et il a eu des enfants de cette femme. Il doit restituer cette chose-ci et faire cela. Pensez-vous qu'avec mes propres pensées, je pourrais faire ça? Il n'y a pas une telle sagesse pour ça, dans cette naissance terrestre. C'est bien au-delà, elle doit venir d'en haut. Alors, quand vous naissez de l'esprit d'en haut, la vie qui était en lui, qui a effectivement fait ces choses, a dit, « Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Il vous faut une autre naissance. Vous avez été séduit. Il se pourrait que vous ayez parlé en langue, que vous ayez sautillé, que vous ayez poussé des cris, que vous ayez fait tout ceci, cela, l'autre chose. Il se pourrait que vous ayez été un membre fidèle. » Nicodème en était aussi un, vous voyez, mais il lui manquait la naissance. Et quand vous niez la parole, que vous essayez de l'appliquer ailleurs, que vous ait touché et l'a dispersé comme vous le faites. Alors, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Tant que l'Évangile sera prêché, ces signes suivront. Dites-moi l'endroit où il a retiré ça de l'Église. Montrez-moi le passage de l'Écriture où il a dit une seule fois, seulement pour tant de temps. Il a dit, par tout le monde et à toute la création. Oui, pour vivre sa vie, il vous faudrait recevoir le genre de vie qu'il avait. Quand vous verrez sa vie, alors vous connaîtrez sa parole. C'est vrai. Quand lui, un pronom personnel, pas une pensée, pas une imagination, pas une sensation, mais quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il prendra les choses que je vous ai dites et vous les révélera et vous annoncera les choses à venir. C'est ça la naissance, c'est ça la confirmation que c'est la parole. Et quand un homme dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et nie la parole de Dieu, qu'il l'applique ailleurs, comment le Saint-Esprit peut-il nier sa propre parole? Maintenant, montrez-moi une organisation dans la parole. Voilà, voyez, très bien. Pouvez-vous imaginer un homme d'affaires? Maintenant, voici à quel point notre Église est en retard. Pouvez-vous imaginer un homme d'affaires qui aurait lancé une affaire ici, qui soit une affaire vraiment florissante et qui doive trouver rapidement du personnel, qui irait vers des morts, des cadavres, en disant « Voulez-vous venir travailler pour moi ?» Il ne lui serait d'aucun profit. C'est pour ça que l'organisation ne se relève jamais, voyez. Des morts, des incrédules qui se rassemblent comme Nimrod, comme Corée, comme ils l'ont fait tout au long de l'âge. Comment? Il n'a jamais utilisé ça, n'a jamais utilisé d'organisation. Il ne peut pas le faire. C'est déjà en dehors de la volonté de Dieu. C'est loin derrière. C'est hors d'atteinte. C'est introuvable. Comment pourriez-vous aller vers un homme qui ne peut pas bouger, qui est paralysé de la tête aux pieds, y compris les mains, et lui dire que vous voudriez qu'il participe à une course à pied pour vous, qu'il court avec persévérance dans cette carrière, qu'il rejette, voyez? Comment pourrait-il le faire alors que cet homme ne peut pas bouger, qu'il est paralysé? Il vous faut d'abord le débarrasser de sa paralysie. Ensuite, il pourra courir. C'est de ça que l'organisation a besoin. C'est d'une guérison divine. Oh là là, j'espère que je ne trouve pas, que je ne donne pas l'impression de critiquer. Vous voyez, je ne suis pas en train de critiquer. Mais si un clou n'est pas rivé, il ressort facilement. Voyez? C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser une dénomination. Dès qu'elle... Souvenez-vous, je crois que Martin Luther avait le Saint-Esprit. Absolument. Peut-être pas dans la même mesure qu'aujourd'hui, parce qu'il n'était pas donné dans cette mesure-là. Nous vous avons présenté ceci en détail, à vous du tabernacle, ici au tableau. Mais il croyait vraiment en Dieu. Et celui qui croit a la vie éternelle. Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui croyait ça comme moi, jusqu'à ce matin, quand j'ai entendu Charles Fuller en venant ici. Il croit aussi que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est de naître. Le Saint-Esprit, c'est le baptême. Voyez? Très bien. Maintenant, nous voyons qu'il faut que cet homme naisse de nouveau pour pouvoir être actif. Bien, en naissant de la chair, vous avez alors la sagesse du monde. Et la sagesse du monde obéit à son maître charnel. C'est vrai. C'est exactement pour cela qu'un homme qui n'a pas la nouvelle naissance, apportez-lui la parole de Dieu, il obéira à son évêque, son surveillant ou son organisation, plutôt qu'à la parole de vie. Pourquoi? Il ne connaît rien d'autre. Mais vous savez, un jour, je serai peut-être un surveillant. Or, Nicodème était un maître. C'était plus qu'un surveillant. C'était plus qu'un un pasteur. C'était plus. C'était un maître en Israël. Voyez? Oui. Et c'était un grand homme. Il faisait partie de ce groupe. Et tout ce qu'il connaissait de Dieu, c'était moins que rien. Voyez? Tout ce qu'il connaissait, C'était un peu d'histoire. À quoi bon un Dieu historique s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi bon le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi bon un Dieu qui a pu sauver un homme sur une croix s'il ne peut pas en sauver un dans les mêmes conditions aujourd'hui? Comme je l'ai toujours dit, à quoi cela sert-il de donner à votre canari de bonnes graines et des vitamines pour qu'il ait de bonnes ailes solides et de belles plumes si vous le mettez dans une cage? Je ne saisis pas. Essayez de lui parler d'un Dieu puissant et tout, si vous le mettez dans une organisation qui ne croit même pas à une chose pareille. Voyez, c'est complètement à côté. C'est pour ça que c'est un échec. Il est mort. On ne peut pas utiliser ça. Dieu n'a jamais utilisé ça. Pensez un peu. Le Saint-Esprit n'a jamais, à aucun moment, utilisé une organisation, nulle part, ni dans l'Écriture, ni dans l'Histoire. Si quelqu'un qui écoute cette bande, ou quelqu'un qui est présent, peut me montrer où le Saint-Esprit a pris une organisation et a agi sur la terre, venez me le dire. Je veux que vous me montriez le livre d'Histoire d'où c'est tiré. Vous savez que ça ne se trouve pas dans l'Écriture. Alors je veux que vous me montriez les récits historiques d'où c'est tiré. Dieu n'a jamais rien utilisé de semblable. Il utilise un individu, toujours. Bien, naître de l'Esprit. Maintenant, naître de la chair et avoir la sagesse du monde. La sagesse obéit à son maître charnel. Naître de l'Esprit, c'est croire et obéir à l'enseignement de la Bible par le Saint-Esprit. Et un homme qui est né de l'Esprit obéit à la parole de Dieu, qu'importe ce que lui dit une quelconque tradition. Un point, c'est tout. Vous êtes né de nouveau. C'est pour ça que vous voyez. Appartenir à une organisation, mettre toutes vos espérances là-dedans. Maintenant, je ne dis pas que les gens dans l'organisation ne sont pas nés de nouveau. Bon, j'y arriverai dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Certainement, ils le sont, mais il s'agit d'individus. Ce n'est pas l'organisation qui est née de nouveau. Ce sont les individus qui s'y trouvent qui sont nés de nouveau. Mais l'organisation ne fait que le détacher de Dieu. C'est tout ce qu'elle fait. Elle vous sépare. Bien. Qu'importe la chair, la dénomination enseigne la chair. Elle est toujours opposée à la volonté de Dieu. Naître de nouveau signifie recevoir la naissance d'en haut. De nouveau signifie d'en haut. Je pense que vous le savez, vous voyez. Naître de nouveau signifie recevoir la naissance d'en haut. Bon, vous verrez, vous pouvez étudier ça, si vous le voulez, dans le lexique. Vous voyez, cela signifie une naissance qui vient d'en haut. Parce que vous êtes né ici, maintenant, pour naître de nouveau, vous devez naître d'ici en haut, pour naître de nouveau. Alors, ce royaume-là est tellement plus élevé que ce royaume-ci, tellement plus grand que ce royaume-ci devient une folie pour celui-là, et celui-là est une folie pour celui-ci. Comme je l'ai souvent dit, moi et ma femme, il n'y a pas longtemps, nous sommes allés acheter des provisions, il y a quelques mois, et nous avons vu une femme qui portait une jupe. C'était la chose la plus étrange que nous ayons vue depuis longtemps. Eh bien, ce matin, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, j'ai entendu l'une des grandes organisations bien connues, et ma fille et moi écoutions la radio en allant faire la dédicace d'une église. Et le chant qu'il chantait, c'était un certain quelque chose de un tel, avec ce style classique de chanter qui me donne l'impression que ces femmes retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne bleu, et qui pensent ensuite que ça, c'est chanter. Ça, c'est couiner. J'aime la bonne vieille manière pentecôtiste de chanter, qui vient directement du cœur. Il se peut que vous n'arriviez pas à chanter une seule note juste, sans détonner. Mais pourtant, vous chantez, vous poussez des cris de joie pour le Seigneur. Je pense que ça, c'est spirituel. J'aime ça. Mais de retenir votre souffle jusqu'à ce que votre visage devienne bleu, que votre voix s'éteigne, ensuite recommence. Qui, vous ne savez pas vous-même ce que vous chantez. Comment voulez-vous que les autres le sachent? C'est ça. Jésus a dit, nous parlons des choses que nous connaissons. C'est vrai, c'est vrai. Ce que nous devrions faire, c'est chanter ce que nous connaissons dans notre cœur, ce que nous ressentons. Et quand ils ont eu terminé, ma fille étudie la musique. Elle a dit, c'était vraiment un classique. J'ai dit, oui, mais combien dans cette chorale d'une cinquantaine de personnes, penses-tu, avaient l'haleine qui sentait la cigarette? Combien dans cette chorale? Hier soir, étant un samedi soir, penses-tu n'ont pas pris un petit verre en société? Combien de femmes là-dedans avaient les cheveux coupés courts? Combien avaient du maquillage? Car le pasteur de l'église a dit, il y a quelques jours, « Dieu a fait un monde plus beau quand il a inventé le maquillage. » Alors que nous savons qu'il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est peinturlurée le visage et Dieu l'a donnée en peinture aux chiens. Et nous, toute personne qui sait quelque chose à propos de l'Église et des païens sait que la peinture est un trait païen. Elle a toujours été. Pourtant, les femmes le font. Et les hommes fument, boivent et se conduisent mal. Et se tiennent là et chantent des voix comme ça. Nous allons y venir dans quelques minutes ici même. Bien, ils font partie d'une organisation, pensant qu'en, à mon avis, il y aura de la désillusion au jugement. Naître de l'esprit, c'est croire et se conduire par l'esprit, c'est comprendre et croire avec le cœur que Jésus est Christ et que ceci, c'est sa parole. Qu'aucune autre parole ne peut y être ajoutée ou en être retranchée sans que votre nom soit ôté du livre de vie. Ça, c'était fort. Si vous y ajoutez une chose de votre tradition, ou que vous en retirez une chose, Christ a dit lui-même, « Votre nom sera effacé du livre de vie. » Maintenant, trouvez une organisation, une dénomination dans la Bible. Vous fuirez loin d'elle. Bien. Qu'importe la chair, l'enseignement de la dénomination est en contradiction avec la Bible. Oui. « Né de nouveau » signifie une nouvelle naissance d'en haut, né d'en haut. Alors, nous sommes actifs dans les choses d'en haut. Oh là là, car c'est lui-même qui agit dans sa parole par vous, son sarment du cèpe. C'est pour ça que Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Oh, certainement, il a dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Observez-le redresser Nicodème ici. Quand Nicodème, vous savez, on pensait qu'étant un homme, il ne pouvait pas être Dieu. Et il a dit, et là il a dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. » C'était trop pour lui. Comment pouvait-il, lui, le Fils de l'homme, descendre du ciel, être le même que celui qui était monté au ciel, et le même que celui qui se tenait sur le toit de cette maison en train de parler à Nicodème, tout en étant à ce moment-là dans le ciel? Eh bien, il aurait dû voir que c'était Dieu. Il est omniprésent, partout, voyez? Mais lui, pris dans ses traditions, ne le savait pas. Il n'était pas spirituel. La pensée charnelle ne pouvait pas saisir cela. Il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent, « Eh bien, c'est le Fils de David. » Il a dit, « Alors pourquoi David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. » Cela montre qu'il est à la fois le rejeton et la postérité de David. Il était avant David, il était David et après David. Voyez, il est le rejeton et la postérité de David. C'est ce que la Bible dit, à la fois le rejeton et la postérité de David. Alors, comment pouvait-il être son fils? Comment pouvait-il être son seigneur? La Bible dit, depuis ce jour, personne ne lui demanda plus rien. Je pense que c'était bien ainsi. Oui, monsieur. Bon. Né de nouveau d'en haut. Alors nous sommes actifs. Actifs dans les choses d'en haut. Car sa vie est en nous, c'est-à-dire sa parole confirmant la parole elle-même. L'Esprit qui est en vous est la parole faite chair en vous. L'Esprit est attentif à la parole et il est en action pour confirmer la parole. Par contre, l'Esprit n'est actif dans aucune dénomination. Ça ne l'intéresse pas de faire une organisation, parce que l'Esprit lui-même est opposé aux organisations. Les organisations recherchent les choses du monde, la pensée du monde, et elles font de grands temples et des choses raffinées, de grandes organisations raffinées, des prédicateurs raffinés et tout le reste, et la meilleure classe sociale de la ville. Alors que l'esprit essaye de trouver des cœurs honnêtes, où l'esprit désire vivement se manifester et prouver que chaque parole de Dieu est vraie. Comment pouvez-vous, comment l'esprit peut-il travailler dans une organisation qui nie, qui accepte des credos à la place de la parole? Il ne le peut pas. Alors, vous voyez, elle est morte. Dieu ne va pas dans des endroits pareils pour trouver un groupe d'hommes qui travaillent pour lui, puisqu'ils sont déjà morts. Ce sont des incroyants dans la parole. Sinon, ils ne seraient pas là-dedans. Voyez? Bon, nous sommes actifs dans les choses d'en haut. Alors l'esprit est attentif à la parole. Ça, c'est vrai, parce que l'esprit donne vie à la parole. Voyez, la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors que je venais ici aujourd'hui, je regardais les grands arbres majestueux de la forêt, sur les grandes collines, parsemées d'arbres bruns, jaunes et de conifères. J'ai dit, vous savez ce que c'est? J'ai dit, nous venons d'avoir la mort, et Dieu a sorti son bouquet. Il les a placés là, sur les collines. Ce sont des fleurs de deuil. La vie est retournée dans la poussière. Dieu vient d'enterrer toutes ces semences de fleurs et tout. Il les a enterrées de nouveau. Elles présentent son bouquet de fleurs épanouies. Il parcourt la terre du regard parce que ce sont des fleurs de deuil. Mais quand le soleil se lèvera de nouveau, cette semence reprendra vie. Amen. Bien, ce qui intéresse l'esprit, c'est de confirmer la parole. Et si vous avez accepté la tradition au lieu de la parole, maintenant vous dites, « Eh bien, nous la croyons entièrement, mais frère Branham, je sais que nous ne croyons pas ceci. » Alors, c'est précisément là que vous vous arrêtez. Un aumônier m'a raconté une fois qu'un capitaine avait dit, ou je crois que c'était un major, qui avait dit, « Aumônier, allez là-bas, il y a un capitaine qui est en train de mourir. » Il s'est fait mitrailler. Il est allé là-bas et le capitaine était en train d'agoniser. Ils l'ont emmené sous une tente de la Croix-Rouge. Et il a dit, « Capitaine ?» Il a levé les yeux au milieu des gargouillements de sang. Et il a dit, « Oui, monsieur ?» Et il a dit, « Vous êtes l'aumônier ?» Oui. Il a dit, « Vous êtes en train de mourir, capitaine. » Il a dit, « Je sais. » Il a dit, « Êtes-vous un chrétien ?» Il a dit, « J'en étais un. » Il a dit, « Où avez-vous quitté le Seigneur, capitaine ?» Il a dit, « Vous le trouverez exactement là où vous l'avez quitté. » C'est exact. Le capitaine a dit, « Je ne me souviens pas. » L'aumônier a dit, « Vous feriez mieux de vous souvenir. Il ne vous reste plus que quelques minutes. » D'après la manière dont vous agonisez, sa bouche s'ouvrait, le sang sortait de sa bouche et de ses oreilles. Il avait été traversé par des balles de mitrailleuse. Il a dit, « Vous feriez mieux de vous dépêcher, vos poumons se remplissent. » Et le capitaine a essayé de se souvenir, alors qu'il était étendu là, en train d'agoniser. Il a esquissé un sourire, il a dit, « Maintenant, je sais. » Il a dit, « Où l'avez-vous quitté ? Repartez depuis là. » Il a dit, « Maintenant, je me couche pour m'endormir. » C'est là qu'il l'avait quitté, c'est là qu'il l'a retrouvé. Quand votre organisation enseigne quelque chose de contraire à la parole, c'est exactement là que vous le quittez. Revenez immédiatement, parce qu'il est en action pour confirmer et pour montrer que cette parole est vraie. C'est ce que Jésus faisait, et faisait toujours la volonté du Père, voyez? Bien. Alors, vous voyez, la compréhension de Nicodème par l'organisation ne voulait rien dire pour Dieu. Alors, peu importe si c'était un gros bonnet, comme on dit, dans l'organisation, un maître en Israël, toute sa connaissance et sa compréhension ne valaient même pas ça. Quand il s'est tenu devant Christ, cela lui a seulement valu une réprimande. Maintenant, j'imagine que tous les gens disaient, « Saint Père Nicodème, Saint Père Nicodème, nous nous inclinons devant toi. » Mais quand Jésus, quand il s'est tenu devant Dieu, il l'a réprimandé pour son ignorance. Alors, vous voyez où tout cela conduit? Oubliez tout ça. Venez, allons vers Dieu. C'est vrai, bien. La grande compréhension de Corée ne voulait rien dire non plus, ni celle d'Adam. Chacune niait le message confirmé de Dieu. Alors maintenant, écoutons attentivement. Nous allons entrer dans des eaux profondes dans un instant. Vous voyez, chacun d'eux, la raison pour laquelle ils ont eu des ennuis, Nicodème, Corée, Nimrod et les autres, c'est qu'ils n'ont pas reconnu le messager de Dieu avec la parole confirmée de ce jour-là. Bon, tout le monde sait ça. Bon, nous pourrions rester longtemps là-dessus. Mais voilà, Dieu prédit et dit qu'une certaine chose va se produire. L'homme, lui, fait des organisations, détermine la place de chacun. Il croyait qu'un Messie allait venir. Oh, ces Juifs, oh là là, bien sûr. Mais quand Jésus est venu, de la manière dont il est venu, ils ont dit, ça ne peut pas être lui. Ils ont failli, ils n'ont pas compris la parole. Or, Jésus n'est pas venu contrairement à la parole, n'est-ce pas? Mais il est venu contrairement à l'interprétation de la parole faite par l'organisation. Moïse n'est pas venu contrairement à la parole. Il est venu exactement selon la parole. Mais Corée ne l'a pas reconnu. Et cela a été ainsi tout du long. Maintenant, regardez. Ce message du jour ne peut pas être seulement quelque chose comme dire « Nous avons la vérité et nous avons ceci, cela ». Cela doit être annoncé d'avance dans sa parole. Et alors, une fois que la parole a été apportée, cela doit être correctement confirmé par la parole. Jésus a été correctement confirmé par Dieu par la parole. Il a dit, « Si vous aviez connu Moïse, vous auriez connu mon jour. » Les prophètes ont bien parlé de lui. Tous les prophètes ont dit ce qu'il était. Et pourtant, cela les a aveuglés. Ils n'ont pas pu comprendre. Voyez, mais Jésus a été, et je veux dire ceci pour la bande, et aussi pour vous. Vous voyez, le messager avec le message du jour. Maintenant, si vous prenez les adventistes du septième jour, ils disent, nous savons ce qu'il faut, observez simplement le sabbat. Montrez-moi ça dans les Écritures. Madame Eddie Baker a dit qu'elle l'avait. Montrez-le-moi. Les témoins de Jéhovah ont dit qu'ils l'avaient. Montrez-le-moi. Voyez? Les méthodistes disent qu'ils l'ont. Montrez-le-moi. Les baptistes disent qu'ils l'ont. Montrez-le-moi. Montrez-moi n'importe quelle organisation. Je suis en train de vous prouver qu'elles sont toutes en dehors de la volonté de Dieu. Elles sont toutes contraires, enseignant des traditions des hommes à la place de la parole de Dieu. Je n'en connais pas une seule qui accepte les choses telles qu'elles sont vraiment écrites dans la Bible. C'est vrai. Mais quand quelqu'un vient dire « J'ai le message du jour », premièrement, il doit être correctement identifié et sa venue doit être annoncée à l'avance. Quand Jean-Baptiste s'est avancé là-bas, ils ont dit « Es-tu le Christ ?» Il a dit « Non ». Ils ont dit « es-tu l'Élie ?» Il a dit « Non ». Il a dit « Qui es-tu ?» Il a pu s'identifier. Il avait le message de l'heure. Il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », comme a dit Esaïe le prophète. Maintenant, si ma naissance et ma vie n'ont pas été en conformité avec ça, ne me recevez pas. Quand Jésus est venu, cela a été la même chose. La même chose. Le messager avec le message, ce doit être un message annoncé à l'avance par Dieu. Et alors Dieu, parlant par l'entremise de ce messager, confirme que c'est la vérité. Avez-vous bien entendu? Est-ce que vous comprenez? Comprenez-le. Ce doit être premièrement « Ainsi dit le Seigneur », annoncé à l'avance. Et ensuite, le messager avec le message. Ce doit être exactement ce que Dieu a dit qui arriverait à ce moment-là. C'est comme ça que Moïse était. C'est pour ça qu'il est tombé sur sa face devant Dieu et a dit, « Oh Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. » Il a dit, « Sépare-toi de cette bande. » Vous voyez ce que je veux dire? Cela a toujours été la chose qui a embrouillé la pensée des hommes, qui les a fait sortir de la volonté de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, annoncé à l'avance par sa parole et correctement confirmé par sa parole. Bon, Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres que de Dieu, alors ne me croyez pas. » Vous voyez, si je n'ai pas... Dites donc, qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Qui de vous peut me montrer que je suis un incroyant? Nicodème a dit, « Nous savons que tu es, Rabbi, que tu viens de Dieu, parce que personne ne pourrait faire ces choses si Dieu n'est avec lui. » Voyez? Donc cela montrait qu'il était un croyant. Bon, nous qui connaissons l'histoire de l'Église... Maintenant, faites travailler vos ménages. Il n'est pas encore tard, vous voyez. Alors écoutez vraiment attentivement, maintenant. Et j'essaierai de faire aussi vite que possible. Je veux écouter attentivement la bande. Maintenant, quiconque a lu l'histoire de l'Église sait que la première fois que le christianisme a été organisé, c'était l'Église catholique romaine. Maintenant, si d'autres fois ont précédé ça, je veux que quelqu'un m'amène l'histoire et me le montre. Je suis un ami intime de Paul Boyd, de nombreux grands historiens. Là, dans mon bureau, j'ai le concile d'après-Nicée, le concile de Nicée, les pères de Nicée, tous les écrits sacrés de l'Église que je connais. Cela fait 33 ans que je les étudie, que je les parcours. Il n'y a jamais eu d'organisation. L'Église catholique est la mère des organisations. Nous savons que c'est la vérité. L'Église n'a jamais été organisée, n'a jamais eu de dénomination, jusqu'à l'Église catholique. Le mot catholique veut dire universel. Et ils ont fait une religion d'Église d'État et l'ont établie sur tous les territoires sous la domination de Rome, qui avait conquis pratiquement toute la plus grande partie du monde de cette époque-là. C'était l'Église d'État et ceux qui ne voulaient pas lui obéir étaient mis à mort. Le concile de Nicée, 15 jours d'un combat sanglant, quand de véritables prophètes de Dieu, quand ils se sont tenus là sur l'Église catholique, pourquoi elle a commencé? Eh bien, nous le savons tous, je l'ai enseigné ici. Comment, en réalité, Aquila, avec Priscilla, était le pasteur? Aquila était le pasteur de l'Église romaine. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il est descendu sur les Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais quelques jours plus tard, Pierre a eu une vision sur le toit de la maison, celle d'aller chez Corneille, un Romain, un homme juste. Il a prié et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après un certain temps, les dignitaires ont commencé à le recevoir. Aquila et Priscilla sont allés à Rome et ils ont organisé, ou ils n'ont jamais organisé, mais ils ont établi la première église romaine. Et quand ils l'ont fait, ils avaient leurs frères et sœurs. Et Claude, sous son règne, a excommunié tous les Juifs de Rome. Et c'est précisément le moment où l'Église catholique romaine a dit que Pierre était à Rome. Montrez-moi un seul passage de l'Écriture où Pierre ait jamais été à Rome, ou un récit historique qui dise qu'il y a été. Il n'y a pas été d'après la parole de Dieu, et c'est ce que je crois. Et comment est-ce que Pierre, un Juif, aurait pu supporter l'idolâtrie et les choses qu'ils avaient là, comme l'adoration d'idoles et tout? Ou, voyez, comment aurait-il pu s'opposer à son propre enseignement? Ridicule. En plus, c'est aussi ce que font les protestants. Attendez, nous allons y venir dans quelques instants, un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Remarquez maintenant, nous voyons que, juste au moment où l'Église dit que Pierre était à Rome, l'histoire dit que Claude, et c'est aussi ce que la Bible dit, avait ordonné que tous les Juifs quittent Rome. Paul a traversé Éphèse et est arrivé là, dans les hautes provinces. Il a trouvé ses disciples et il a rendu visite là-bas à Aquila et Priscilla. Après leur départ, alors les frères romains de cette église ont commencé à avoir leurs propres idées et ont ajouté de l'idolâtrie. Et alors Constantin, dont la mère était une vraie chrétienne, qui espérait que son fils en serait un, mais c'était un politicien. Il a vu que la plupart des habitants de Rome, ou une grande partie de la classe pauvre, avaient déjà accepté le salut par Christ. Et alors, ils ont commencé à devenir très populaires, parce qu'ils enlevaient Vénus et établissaient Marie. Ils enlevaient Jupiter et établissaient Pierre. Et ainsi de suite comme ça. Et les disciples, c'était une religion très populaire. Ils étaient courageux. Ces chrétiens allaient mourir. Alors, l'Église catholique a dit, c'est nous qui étions le commencement. C'est tout à fait vrai. L'Église catholique a débuté le jour de la Pentecôte. Mais voici ce qu'il a fait dévier. Elle s'est organisée et a injecté de la parole des dogmes. Et le dogme le plus récent, vous qui avez plus de 10 ans, pouvez vous souvenir du dogme le plus récent. C'est l'ascension de Marie, il y a environ 10 ans. Un autre dogme ajouté à l'Église, au lieu de l'Écriture, c'est le dogme. Et ils vous font bien comprendre, là, qu'ils ne se soucient pas de ce que l'Écriture dit, mais de ce que l'Église dit. Ce prêtre m'a dit, il a dit, « Dieu est dans son Église !» J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit, eh bien cette Bible, c'est seulement une histoire de l'Église catholique primitive. J'ai dit, alors, je suis un catholique primitif. J'ai dit, ça fait de moi quelqu'un de plus catholique que vous qui êtes prêtre. Voyez, j'ai dit, si c'est ça, alors c'est ce que je suis. J'ai dit, voyez-vous, je crois exactement ce que les apôtres ont enseigné. Vous, vous croyez ce que l'homme y a injecté. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Certainement, ça s'est passé comme, exactement comme ça. Maintenant, remarquez, l'histoire. Ensuite, ils ont commencé à ajouter des dogmes, un dogme. Et quand Paul est passé par là, nous savons d'après l'histoire qu'il n'a même pas visité cette première église parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idolâtrie. Il a visité la seconde église qu'ils avaient établie, la seconde église de Rome. Et quand ce concile de Nicée est arrivé, c'est là que Constantin a eu l'idée d'unir son royaume. C'est exactement ce qu'Achab a fait avec Jézabel, en l'épousant là-bas, voyez. Et quand il a vu la possibilité d'unir son peuple et d'en faire une grande nation puissante, il a pensé qu'ils adopteraient leur religion. Alors, il leur a fabriqué une religion d'État-Église. Et quand ils ont eu ce concile de Nicée et qu'ils se sont posé des questions pour savoir s'il y avait un seul Dieu ou trois, s'ils devaient baptiser au nom de Jésus-Christ ou Père, Fils et Saint-Esprit, toutes ces autres questions ont fini par une confrontation. Et quand ça s'est passé, quelques-uns de ces vieux prophètes sont venus là-bas, enveloppés seulement de peaux de mouton et se nourrissant d'herbes sauvages. C'est vrai, mais ces grands dignitaires qui s'étaient déjà aménagé une place dans l'Église les ont fait taire avec leur sagesse du monde. Mais ils avaient l'ainsi dit le Seigneur. Elle est entrée dans des ténèbres païennes pendant un millier d'années, mais elle a ressurgi pour s'épanouir. C'est vrai, on ne peut pas la tuer. Je vous remplacerai, dit l'Éternel, toutes les années qu'ont dévoré ces choses. Ces dénominations ont ajouté des dogmes. Et pour faire ça, pour ajouter des dogmes, la seule façon pour n'importe quelle église, la seule façon dont une dénomination puisse s'éloigner de la parole de Dieu, c'est en ajoutant des dogmes au lieu des écritures sacrées. C'est en essayant de faire de votre tradition ou de la doctrine de votre église, bien qu'elle soit en contradiction avec les écritures. Alors, comment pouvez-vous condamner l'Église catholique alors que vous faites la même chose qu'eux? Est-ce que vous comprenez? Bien. Quand, maintenant, réfléchissez un peu. Les Écritures ne peuvent pas faillir. Premièrement, les dogmes sont des mensonges. Quand vous acceptez une dénomination, vous avez déjà un dogme parce que c'est quelque chose d'ajouté. Ce n'est pas dans l'Écriture. Ce n'est pas dans l'Écriture. Les organisations, ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit, « Je vous donne la commission d'aller par tout le monde faire des organisations. » Non, monsieur, ça n'existe pas. Faire ceci, c'est rejeter les Écritures sacrées. Quand on a fait cela, on a changé l'Église par naissance en l'Église par dogme et credo, pas église, excusez-moi, club. Vous naissez dans l'église, mais vous adhérez à un club. Ce n'est pas l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste, c'est le club pentecôtiste et le club méthodiste. Vous y adhérez. Vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Ça n'existe pas. Vous y naissez. C'est ce qui était dit à Nicodème. Alors, vous voyez où vous vous trouvez? Oh là là! C'est pour ça que je suis contre. Pas contre les gens qui s'y trouvent. C'est contre le système que je suis. En effet, ils ne peuvent pas, si l'un des anciens ou autre chose, de l'une de ces églises, prêche quelque chose qui est dans la Bible, mais qui est en contradiction avec cette doctrine, avec la charte qu'ils ont dans cette église, il est excommunié sur le champ. Oui, monsieur, certains sont tellement horribles qu'ils ne laissent même pas venir des réunions de réveil dans une autre église, à moins que ce soit l'un des leurs. C'est qu'ils sont tellement... Une fois, quelqu'un allait donner un prédicateur, ici même, dans ce pays. Un petit prédicateur se tenait ici dans la rue. Il demandait avec larmes et supplications que les gens se repentent. Il disait, « Venez recevoir Christ, soyez remplis du Saint-Esprit » et des choses comme ça. Voilà que quelqu'un d'une organisation pentecôtiste s'est avancé. Il a mis $1 dans la main de cet homme. Il a dû se repentir parce qu'il avait commis un adultère contre son église. Parlez donc des catholiques. C'est vrai. Vous savez aussi de laquelle je parle. Ou en tout cas, cette Église le sait. Bien. Faire ceci, rejeter les Écritures, quand on le fait, il y a alors un changement, quand on ajoute un dogme et qu'on adhère à une organisation. On a automatiquement accepté son premier dogme, parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est donc quelque chose d'ajouté. Et un dogme, c'est quelque chose d'ajouté, qui prend la place de, ça prend la place de la naissance. Quand vous acceptez une dénomination, vous ajoutez un dogme. Bien, quand on fait ceci, alors on change d'une église par naissance en un club par dogme ou credo. Car, vous voyez, c'est déjà un dogme. Parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Or, Jésus n'a jamais dit « Allez par tout le monde et faites des dénominations. Allez organiser les gens ensemble. » Il a dit « Allez faire des disciples. » Vous le croyez? Amen. Alors, vous voyez, vous êtes carrément en dehors. Écoutez, regardez ici, terminons par autre chose. Faisons-le pénétrer maintenant, profondément. Combien ont un lexique grec, le emphatic diglotte, tiré des anciens manuscrits en grec? Bien, lisez-le. Prenez n'importe quel spécialiste que vous voulez. Allez prendre le lexique à la bibliothèque, le lexique grec. Lisez Apocalypse 17. Et quand vous lisez dans la version du roi Jacques, là, il dit ceci. Il me transporta en esprit, et je vis une femme assise sur une bête vêtue d'écarlate, pleine de noms de blasphème. Or, c'est ce que dit la version du roi Jacques, mais l'interprétation originale dit « transporta en esprit, et je vis une femme pleine de noms blasphématoires ». Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Maintenant, observez, nous comprenons tous et savons que c'était l'Église romaine qui était assise sur cette colline, contrôlant les puissances du monde. Elle était appelée une prostituée et elle était une mère d'impudiques. Observez, qu'est-ce qu'une impudique? Est-ce que ça pourrait être un homme? Ce doit être une femme. Alors, si c'est une femme, ce doit être une église. C'était la mère d'impudique, comme elle, elle l'était. Et regardez, observez, en elle, laissez-le pénétrer, en elle, il y avait des noms blasphématoires. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, les ministres ici et à l'écoute de la bande, restez tranquilles. Que sont ces noms blasphématoires? Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes, et ainsi de suite. Des noms blasphématoires parce que ce sont des organisations de la prostitution pour Dieu, tout comme elles. Et eux, dans ces groupes, les gens disent, « Voyons, c'est un méthodiste, et il fait ceci. C'est un pentecôtiste, et il fait ceci. C'est un presbytérien, et il fait ceci. » Ils font tout ce qu'on peut trouver dans les annales. Vous le savez. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des noms qui devraient être semblables à Christ et porter le nom de chrétien. Mais ce sont des noms blasphématoires. Ce ne sont pas des églises. On les appelle faussement églises. Ce sont des clubs. Maintenant, vous voyez pourquoi je suis contre les organisations, pas les gens, le système des organisations. Vous voyez, des noms, les noms blasphématoires, observez, de clubs, qu'on appelle faussement des églises. Église méthodiste, église baptiste, église presbytérienne, église pentecôtiste, église luthérienne, église unie des frères, ça n'existe pas. C'est contraire aux Écritures. Il n'y a qu'une église. Et vous ne pouvez pas y adhérer. Vous y naissez. Vous êtes prédestiné à en faire partie. Le corps mythique de Jésus-Christ, le corps mystique plutôt, de Jésus-Christ, ici sur la terre, avec la parole qui se manifeste. Les fils et les filles de Dieu, ils ne sont membres d'aucune de ces choses. Sortez du milieu d'elles. C'est ce qu'il a dit. Oui, observez. Rapidement maintenant, je ne veux pas vous fatiguer, mais si vous me donnez encore quelques minutes, je ferai aussi vite que possible. Mais je veux m'assurer que vous ayez bien saisi. afin que vous ne manquiez pas cela. Voyez ? Souvenez-vous, la mère, Rome, on l'a trouvée pleine de noms blasphématoires, une mère d'impudique. Alors, si ce sont des impudiques, qu'est-ce qu'une impudique ? Qu'est-ce qu'une prostituée ? La même chose qu'une impudique. C'est une femme qui est infidèle à son vœu de mariage. Et toute église qui prétend être l'église de Christ et qui nie la parole de Dieu, elle est infidèle à son vœu de mariage. Alors, elle commet un adultère en ajoutant des dogmes de la prostitution avec le monde et sa sagesse, plutôt que d'accepter Christ et la puissance de sa résurrection par le Saint-Esprit. Et elle est la mère des impudiques qui ont fait la même chose. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron, vous savez. Vous voyez, c'est blond bonnet et bonnet blond. Certains de ces gens n'arrêtent pas de se moquer des catholiques, alors qu'eux-mêmes font partie de la même chose. C'était la mère du faux baptême d'eau. C'est la mère de la fausse preuve du Saint-Esprit. Et vous la suivez tout bonnement. Maintenant, voyons. Est-ce vrai, frère Branham? Restez tranquille un instant. Vous voyez, c'est la mère de noms blasphématoires, de clubs auxquels les gens ont adhéré. Et ils amènent de l'opprobre, vivent n'importe comment, portent des shorts, les femmes, les cheveux coupés courts, peinture lurée. Ils chantent dans les chorales, fument la cigarette, prennent la communion, toutes sortes de souillures du monde. Et c'est une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Timothée n'en a-t-il pas parlé, le Saint-Esprit? Observez, vous voyez, elle, Rome, est la mère de toutes. Voyez, dans votre organisation, vous avez fait exactement comme elle. Vous avez injecté des dogmes à la place de la parole, parce qu'un groupe d'hommes l'a défini ensemble. Les surveillants et les évêques et les autres ont dit que cela devait être comme ceci. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Et essayez, mon frère pasteur, d'accepter la parole de Dieu tout entière et regardez où vous allez vous retrouver, directement à la porte. Maintenant, nous allons voir si Dieu vous a dit de le faire, oui ou non, dans quelques instants. Voyez ? Bien. Vous voyez, elle est la mère de toutes, parce qu'elle a été la première à retrancher les écrits de l'Écriture et à ajouter des dogmes, parce qu'elle a rejeté les prophètes oints dont la vie était confirmée par la parole, à cause de leur intelligence, des hommes capables, des empereurs romains et d'autres encore qui avaient accepté le christianisme, mais qui voulaient l'accepter à leur manière. Voyez, c'est vrai, ils le veulent à leur manière. Naaman voulait se débarrasser de sa lèpre dans les eaux de son pays à lui. Il n'aimait pas les eaux boueuses du Jourdain. Mais s'il voulait un jour se débarrasser de sa lèpre, il fallait qu'il s'avance dans cette boue, exactement comme le prophète le lui avait dit. Vous voyez, Dieu ne fait exception de personne. Remarquez, elle a été la première dénomination. Regardez ses filles. Elles ont fait la même chose. Elles ont ajouté des credos et des dogmes à la place de la parole. Ne me dites pas, montrez-moi une qui ne soit pas en dehors d'elle. Montrez-moi un pasteur qui acceptera la vérité, qu'on ne va pas vous mettre à la porte à cause de cela, à moins que vous soyez tellement populaire que, vous savez, ils doivent s'accrocher à vous à cause de votre popularité ou autre chose. Ça ne fait rien. Maintenant, regardez quelques instants Apocalypse 18, le verset suivant, le chapitre suivant, après qu'Apocalypse 17 a exploré et montré le mystère de cette Madame Babylone. Le chapitre 17 de l'Apocalypse explique que c'est une église assise sur sept collines, la cité du Vatican, qui dirige tous les rois de la terre. C'est tout à fait ça. Et aussi les présidents, et ainsi de suite. Ah oui. Alors, mais elle est là, détenant la richesse de son monde dans la main. C'est exact. Qui peut combattre contre elle? C'est vrai. Nous savons tous ça. Mais pourquoi voulez-vous faire partie de quelque chose qui lui est relié? Maintenant, remarquez au chapitre 18, le chapitre qui vient juste après que son mystère a été expliqué. S'asseoir dans le temple de Dieu. Maintenant, tenez, l'autre jour, Zella Brightman, êtes-vous ici ce soir, Zella? Elle a apporté, c'est là, dans la pièce maintenant, le journal catholique, notre visiteur du dimanche. Et ce journal catholique répondait à un ministre. Il disait, « Monsieur le révérend, avez-vous dit que le, dans le nombre en chiffres romains qui est au-dessus du Vatican ou au-dessus du trône du pape, il est écrit « Vicarius Filii Dei », ce qui signifie que là-bas, dans le diocèse catholique, c'est le nombre de la bête de l'Apocalypse. Eh bien, a-t-il dit, certainement, c'est ça, c'est exact. Une fois déchiffré, cela fait 666. C'est exact. Et le diocèse romain l'a admis que c'est bien ça. Mais voici leur réponse, intelligente, remplie de sagesse. Ils ont dit, mais vous savez, votre nom, dans une certaine langue, une fois déchiffré, fera peut-être le même nombre. Cet homme a dit, le mien, c'est presque le même nombre dans une certaine langue. Il l'a épelé. Il a dit, vous voyez, moi aussi, cela fait presque 666. Il a dit, il y en a eu des centaines. Il a dit, chaque fois que quelque chose apparaît, il y a quelqu'un pour qui ça fait 666. Et il a dit, Monsieur le Révérend, saviez-vous que, dans une certaine langue, votre nom, une fois déchiffré, voudra peut-être dire Antichrist? Il a dit, pourquoi regardez-vous à de telles choses? Regardez la sagesse. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'il en est. Observez. Il se pourrait que mon nom, une fois déchiffré, fasse 666, mais je ne remplis pas les autres conditions. Je ne suis pas assis sur une colline. Je ne dis pas ces choses-ci. Je ne suis pas un gouverneur, vous voyez. C'est vrai, c'est de lui qu'il parle. Alors, votre sagesse du monde n'est rien, monsieur. C'est vrai, en présence du Saint-Esprit. Je ne remplis pas les autres conditions, mais lui, oui, assis dans le temple de Dieu, se présentant comme étant Dieu, et assis sur cette colline, je ne suis pas assis sur cette colline, même s'il fait 666 une fois déchiffré. Je ne remplis pas les autres conditions, mais lui, oui, vous voyez, c'est ça. Voyez? Alors, appuyez-vous simplement sur le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père. Alors, comment votre sagesse et votre nouvelle naissance d'en haut peuvent-elles rivaliser avec ces choses ici sur terre, avec ces puissants magiciens? En effet, ils connaissent toutes les combines. Comment Moïse a-t-il pu supporter ça quand, suivant les commandements de Dieu, il a jeté son bâton par terre et que ce dernier est devenu un serpent? Et qu'alors, les magiciens sont venus et ont fait la même chose. Mais Moïse est resté tranquille. Il savait qu'il avait suivi la parole de Dieu et son serpent a dévoré les autres. Voyez? Alors, quand vous avez obéi, que pouvait-il faire alors qu'il les conduisait au pays de la promesse et qu'ils étaient bloqués par la mer Rouge, tandis que le sentier de Dieu passait droit à travers? Amen! Il a dit, restez tranquille et voyez la gloire de Dieu. Quand vous êtes sur le sentier du devoir, en train de suivre la parole, tenez-vous là et regardez-la s'ouvrir. Amen. J'ai 53 ans. Je le sers depuis environ 33 ans. J'aurais aimé pouvoir le servir pendant 10 millions d'années. Je ne l'ai encore jamais vu faillir quand on observe sa parole. C'est vrai. Maintenant, regardez. Immédiatement après son péché, ses secrets ont été découverts. Nous avons eu ça il y a longtemps. Nous connaissons ces choses. Maintenant, le chapitre suivant. Regardez Apocalypse 18. Laissez-moi le prendre un instant. Ça pourrait être une bonne chose. Ça ne nous prendra que quelques minutes de plus. Et peut-être que cela aura un sens pour vous. Je l'espère. Maintenant, nous voyons ici, au chapitre 17, le verset 5. « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, l'abomination de la terre. » Et observez, « Et je vis cette femme, église, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous voyez, en la voyant, elle était grande, magnifique, et c'était la mère des prostituées, de la religion prostituée, des dénominations. C'est exactement ce qu'elle a fait, vous voyez, parce qu'elles ont injecté des dogmes tout comme elle. Maintenant, regardez. Regardez dans l'Apocalypse maintenant. C'était le chapitre 17 qui se termine par le verset 18. Maintenant, observez. Après cela, après que son mystère a été découvert, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Maintenant, voici un autre messager qui descend. Le chapitre suivant, son mystère à elle a été découvert. Bon, maintenant, ceci, c'est la découverte de son mystère et du mystère de ses enfants. Vous voyez, nous comprenons maintenant exactement ce qu'a fait d'elle une prostituée. C'est qu'elle a commis un adultère contre la parole de Dieu. Et c'est ce qu'a fait d'elle une organisation. Elle n'a pas pu rester une église de la Bible et accepter cela. Et aucune organisation qui n'en accepte pas chaque parole de la manière dont elle est écrite ne peut être une église de la Bible non plus. Je n'en connais pas une seule qui fasse exception, pas une seule. Alors là, vous voyez, dès qu'elle s'organise, qu'elle fait certaines choses, d'après l'Écriture et des preuves, elle meurt sur le champ, elle accepte le dogme. Maintenant, regardez, c'est bien ce qui est arrivé. Dans ce chapitre 18, Dieu a envoyé un ange puissant, une fois ce mystère connu, un ange puissant ou un messager. Regardez bien ici, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, avec une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle tombe, Babylone, la confusion, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau pur et haïssable, impur et odieux. Et toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ses impudicités, et que les rois de la terre, livrés avec elle à des impudicités, et que les marchands de la terre ont été enrichis par la puissance de sa désolation. Regardez, immédiatement après que son mystère a été connu, qui elle était, ce qu'elle était, qui étaient ses filles, que le mystère a été connu. Alors Dieu a envoyé un ange, un messager, pour faire quoi? Appeler à sortir. Sortez! Le message de l'heure. Sortez du milieu d'elle, mon peuple! Afin que vous ne participiez point à ces fléaux. Il va la maudire. Regardez bien, sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé beaucoup, un ange puissant ou un messager, et sa lumière n'est pas apparue en cachette, et s'est répandue sur la terre. Sortez du milieu d'elle. Quoi? Elle et aussi ses sœurs. Pour éclairer la terre et appeler son peuple à sortir d'elle. Vous savez que c'est la vérité. Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et sa lumière a éclairé la terre, le glorieux Saint-Esprit. Remarquez, la Bible dit, elle est un repère et elle a attrapé des oiseaux odieux impurs. Donc, pas des aigles, non, 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 non. Des vautours, des oiseaux impurs, odieux. C'est ça qu'elle a mis en cage autour d'elle. Elle est un repère qui en est rempli. Un repère complètement rempli. De quoi? De noms blasphématoires, en contradiction avec l'Écriture. 2 Timothée 3 dit, c'est le Saint-Esprit qui parle, « Dans les derniers jours, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Il est aussi dit, le Saint-Esprit a parlé, « Dans les derniers jours, ils seraient emportés, enflés d'orgueil. » Oh Dieu, Dieu soit béni, il faut que vous fassiez partie de nous, que votre nom soit dans notre registre. Sinon, vous êtes perdus. Odieux, impur. J'espère que je ne blesse pas. J'espère que je fais du bien. Des oiseaux odieux, impurs. Elle les a mis en cage. Souvenez-vous, Dieu est un aigle. Il s'est appelé lui-même un aigle. Et il a appelé Jacob un aigle. Et nous sommes ses aiglons. Amen. Il a appelé ses prophètes des aigles. Et cet ange est descendu pour exposer ça et appeler à sortir. C'est comme mon petit message sur l'aigle qui éveille sa couvée. Ce petit aigle avait suivi tout le temps cette vieille poule dans la basse-cour qui gloussait. Mais il ne pouvait pas manger ces machins qu'elle avait, ses fêtes et ses femmes au visage peinturluré, les cheveux coupés, courts et en short. Il ne pouvait pas faire ça. Mais il ne connaissait rien d'autre que le gloussement de cette vieille poule. Mais un jour, la mère aigle l'a retrouvée. Elle a crié. Elle a appelé à sortir. Elle a dit, « Fiston, tu n'es pas l'un d'entre eux. Sors du milieu d'elle. » Il a dit, « Maman, qu'est-ce que je peux faire ?» Elle a dit, « Bats des ailes et lance-toi » Au premier saut, il a atterri sur un poteau au beau milieu d'une organisation. Elle a dit, « Fiston, il faut que tu montes plus haut que ça, sinon je ne pourrai pas t'attraper. Il faut que tu fasses décoller tes pattes du sol. » Elle va l'emmener faire un vol. Il a découvert qu'il pouvait voler. Elle est venue l'appeler à sortir. C'est vrai. Mais cette mère Babylone avait attrapé une bande de poulets, des poulettes mondaines, peinturlurées, les cheveux coupés courts, qui se déclarent chrétiennes. Elle en a un repère rempli. Vous, prédicateurs, qui vous tenez à la chair et fermez les yeux sur ces femmes qui se permettent ça, honte à vous pour agrandir votre dénomination. Dieu vous demandera des comptes pour ça. Sortez-en. Mes brebis entendent ma voix. Un repère de gens odieux, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, qui préférerait ressembler au monde plutôt qu'à Christ. Quand vous voyez une femme très maquillée, cela montre qu'elle est vide à l'intérieur. Elle est fausse à l'intérieur. C'est tout à fait ça. Si la femme, j'en ai vu une l'autre jour, qui avait les cheveux verts, c'est vrai, qui avait tout ce machin vert sur les yeux. Bon, si vous n'aviez pas de cheveux et que vous vouliez vous mettre des cheveux, il n'y aurait pas de problème. Mais mettez-en qui ait l'air humain. Et si vous n'aviez pas d'ongles et que vous vouliez mettre des ongles, n'en mettez pas qui ressemblent à des cosses de haricots blancs. Mettez de vrais ongles. Si vous n'avez aucune de ces choses, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de dons, procurez-vous-en. Si on peut vous en faire, procurez-vous-en. Mais n'arrachez pas les dons que Dieu vous a donnés juste parce qu'elles sont un peu de travers, alors qu'elles sont bonnes, pour vous en procurer d'autres. Ne vous teignez pas les cheveux ou autres et ressemblez alors à quelque chose qui est sorti de la vase quelque part. Ne. Si vous n'avez pas de couleur et que vous voulez paraître en avoir, il n'y a pas de problème, j'imagine. Mais ne cherchez pas à ressembler à Jézabel ou à une grange quelque part, en train d'être peinte en rouge. Et vous, frère pentecôtiste, qui laissez ces femmes se couper les cheveux, alors que la Bible dit que c'est sa gloire. Ce n'est même pas convenable qu'elle prie avec des cheveux comme ça. Et pourtant, vous la laissez monter à la chair, prêcher l'évangile, chanter dans la chorale, enseigner à l'école du dimanche. Honte à vous! Vous devriez avoir honte. Pourquoi suis-je contre l'organisation? Vous croyez que je pourrais me plier une fois à quelque chose de pareil? Je sais pourquoi vous le faites, frère. Vous savez bien ce qu'il en est. Mais si vous enseignez contre ça, on le rapporterait au quartier général et il vous excommunierait. Dieu soit béni pour votre courage si vous le faites. C'est vrai, Dieu vous honorera. Qu'est-ce que cet ange a dit? Sortez du milieu d'elle! Oui, monsieur. Cet ange est venu sur la terre. Il est venu apporter la lumière et a fait briller la lumière dans le monde entier. C'était un ange puissant. Et il est venu proclamer le message disant, « Sortez de Babylone. Ne touchez pas à ces choses impures. » Elle en a un repère plein. Il est dit, elle est le repère de tous les oiseaux odieux. Oui, elle en a maintenant un repère plein. Le Conseil mondial des églises. Ou des clubs. Elle a maintenant mis toute cette bande en cage. Elles sont toutes en train de se rassembler. Elle est devenue un repère, certainement, plein d'oiseaux odieux. C'est vrai. Essayez de parler une fois l'un d'eux. Essayez donc. Ah, mes amis, intelligents selon la sagesse du monde, mais qui ne connaissent pas plus Dieu qu'un lapin ne saurait ce que c'est que des raquettes à neige. C'est vrai. Voyez, il n'y a que ça. C'est tout ce qu'ils connaissent. Une certaine sagesse par laquelle ils peuvent mettre ceci et faire ça là-dedans. Mais quand il s'agit de le connaître lui, oui, ils se sont fait prendre dans son repère avec ses dogmes. Les églises protestantes ont commencé à faire la même chose. Elles sont devenues ses filles. Elles ont produit cela en niant la parole de Dieu. C'est ce qu'elle fait. Elle nie la parole. Et quand vous acceptez autre chose que la parole, vous la niez vous-même. Et quand vous adhérez à l'une d'elles, vous avez aussi nié la parole. Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Il n'y a pas de place là pour l'Écriture. Remarquez, ceci, c'est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange dans l'âge de l'Église pour Laodicée. C'est le messager de Laodicée. C'est le dernier. Parce que le chapitre juste après, c'est le chapitre 19, qui se rapporte à la venue de l'épouse. Et c'est, dans l'Écriture, le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était alors l'âge de l'Église de Laodicée. Que devait faire le messager de l'âge de l'Église de Laodicée? Les appeler à sortir de Babylone. Regardez, les églises prises dans son repère avec elles, avec ses dogmes, niant la parole et acceptant les dogmes. C'est l'ange de lumière à l'Église de Laodicée. Elle qui avait rejeté Christ et sa parole pour les dogmes et qui l'avait mis dehors. Et lui s'est tenu à la porte, frappant, essayant d'entrer. Voyez, l'âge de l'Église avait rejeté le Christ et Christ est la parole. Il l'avait rejeté et lui, il était à l'extérieur. C'est le seul âge de l'Église où l'on est Christ à l'extérieur qui frappe, essayant d'entrer. Et le message de cet ange, de ce messager qui vient de Dieu, il faisait résonner son message sur la terre, disant, « Sortez de Babylone, sortez des organisations !» Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole, parce que le Saint-Esprit confirme seulement la parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes. Il n'y a point de vie en eux. Lui est la vie. Remarquez, l'âge de l'Église de Laodicée l'avait renié, l'avait rejeté et l'avait mis dehors. Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ au chapitre 19 de l'Apocalypse. La voix du messager, si nous faisons attention, quand il a fait entendre sa voix sur la terre, une voix a de nouveau fait écho dans le ciel. Le verset 4, si vous voulez le lire, bien, le verset 4, le chapitre 19, ce messager sur la terre avait une telle prédisposition pour Dieu que quand il a parlé sur la terre, Dieu en a renvoyé l'écho depuis le ciel. Quelle est la traduction de ce verset 4? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est la voix de Dieu qui parle à son peuple prédestiné, qui dit « Sortez du milieu d'elle ». C'est exactement ça, la voix. Il a des gens là, partout, partout dans Babylone. « Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Oui, monsieur, quittez ses dogmes et ses credos pour aller vers la parole, faites esprit et vie. Amen. Remarquez, le chapitre 19 vient ensuite, après cela. Avez-vous remarqué ici au chapitre 19, après cela, observez quoi? Après quoi? Après le message qui dit, sortez du milieu d'elle. Après cela, observez, il y a le cri de joie des saints de l'épouse avec l'époux qui vont aux noces de l'agneau. Alors frères, combien proches sommes-nous? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone! Maintenant, mes frères, voilà pourquoi je suis contre. C'est contraire aux Écritures. Ce n'est pas orthodoxe. Il était prouvé que c'était faux. Dieu n'est pas là-dedans. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans ces organisations. C'est par eux que l'Église s'est constituée. Mais tant que vous restez dans ce système, vous en faites partie. Si j'habite aux États-Unis, je suis américain. Tant que je suis citoyen ou membre de ces États-Unis, j'en fais partie. Si je pars pour l'Allemagne et renonce à ma qualité de membre ou à ma citoyenneté, je prends la citoyenneté en Allemagne. Je ne suis plus américain, je suis allemand. Et si je pars pour le Japon ou ailleurs, la Russie, je deviens un citoyen là-bas. Et quand vous adhérez à une citoyenne, un système, et devenez citoyen de ce système, vous montrez ce que vous êtes. Et en ces derniers jours, Dieu appelle les gens à en sortir. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas avec elle. Et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ces choses impures, vous voyez, et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai Dieu pour vous, voyez. C'est pour ça que j'ai parlé contre l'Église, le club. Je ne peux pas l'appeler une Église. Il y a une seule Église, c'est l'Église du corps de Christ. Mais ces clubs qu'on appelle Église, ma Bible me dit que ce sont des noms blasphématoires, tous. Toutes les organisations, en quoi blasphèment-elles? Un blasphème, c'est être en contradiction avec ou parler contre. Quand Dieu dit « Venez, naissez » et qu'elles disent « Venez, adhérez ». Voyez? Quand les baptêmes de l'Esprit sont remplacés faussement par une hostie dans l'Église catholique, une poignée de main dans l'Église protestante, et une émotion dans l'Église pentecôtiste, à la place de la personne de Christ qui entre accompagnée de tout cet édifice pyramidal que nous avons présenté l'autre jour. Ajoutez à votre foi la vertu, et ainsi de suite. Tout cela dans 1 Pierre, le premier, 2 Pierre, je crois, le premier chapitre, où tout cela est ajouté à votre foi, toutes ces choses, la piété, la pureté, la sainteté, tout. Et ensuite, vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Mais c'est comme quelqu'un qui... Les gens prétendent avoir ceci, alors qu'ils ne l'ont pas, parce qu'ils ont été faussement enseignés. Les méthodistes ressentent quelque chose d'étrange. Ils le ressentaient et tremblaient un petit peu, ou dansaient par l'Esprit. Les pentecôtistes parlent en langue, ou font quelque chose d'émotionnel. Je crois à ces choses, certainement, mais ces choses, sans ces autres, ne servent à rien. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est comme un paon ou un merle qui essaie de se mettre des plumes de paon, ou une buse qui essaie d'utiliser des plumes de colombe. Elles n'ont jamais poussé là, c'est elles qui se les est enfoncées. Elles sont plantées, elles sont une dénomination. Mais quand Dieu met quelque chose là-dedans, c'est naturel. Vous vous forcez à dire... Hier soir, j'ai adhéré à l'Église. Je ne peux plus aller là. Je ne peux plus boire. Je ne peux plus faire ceci. J'ai adhéré à l'Église. Vous voyez, vous essayez de mettre des plumes de paon sur votre carcasse de buse. C'est vrai. Voyez, voyez. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous receviez Christ. Et quand vous recevez Christ, vous ne pouvez pas recevoir Christ sans recevoir sa parole, parce qu'il est la parole. Et quand vous avez une forme de piété et niez cela, alors je me pose des questions, voyez? Vous pouvez continuer à faire partie de toutes les organisations que vous voulez et avoir une forme de piété et quand même ne pas l'avoir. Alors, voilà, c'est ça, mes amis. Tout est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Je ne dis pas ceci pour me singulariser. J'explique ma manière de voir. Comme c'est aujourd'hui le jour de l'armistice, je ne signe pas un traité de paix avec vous, les ministres. Pas du tout. Je pense que c'est vous qui devriez venir le signer avec moi. Pas avec moi, mais avec Dieu, la parole. C'est vrai. C'est vrai. Dites ce que la Bible dit. Dites-le comme elle le dit. Parce que la Bible dit, celui qui en retranchera ou qui ajoutera. Vous voyez, l'organisation est contraire aux Écritures. Et quand vous recevez le premier dogme, autant retourner complètement en arrière. Puisque, à ce moment-là, vous traversez la ligne de démarcation. Quand vous revenez à la nouvelle naissance, alors vous entrez dans l'Écriture. Allez dans une dénomination. Ils disent, « Je sais, nous ne croyons pas à ça. Nos évêques dans notre Église enseignent que nous sommes l'une des plus anciennes Églises. Nous n'enseignons pas. Peu m'importe ce qu'ils n'enseignent pas. Si la Bible l'enseigne, le Saint-Esprit en vous se nourrira de la parole. » Peu importe l'intelligence d'un homme et les explications convaincantes qu'il essaie d'en donner, on peut donner des explications convaincantes. Un incrédule peut prendre la Bible et, par ses explications convaincantes, vous détourner de Dieu. Par conséquent, personne n'a le droit de prêcher l'Évangile s'il n'a été, comme Moïse, là-bas, derrière, sur ces sables sacrés où lui et Dieu seuls se sont tenus, jusqu'à ce que cet homme naisse de nouveau et se tienne là, face à face avec Dieu, et qu'il le sait. Il n'y a aucun incrédule, il n'y a aucune psychologie, il n'y a aucune explication, il n'y a aucun érudit au monde qui puisse vous enlever cela. Vous y étiez quand c'est arrivé. Oui, monsieur, vous savez ce qui est arrivé. Alors vous dites, j'ai eu cette sorte d'expérience et j'ai reçu un esprit sur moi. S'il nie la parole, d'une manière ou d'une autre, vous avez reçu le mauvais esprit. Vous dites, je ne peux pas accepter des affaires comme ça. Je sais, mais notre Église, il y a là un mauvais esprit. Voilà la marque qui vous identifie. Cain, tu es marqué. Oui, monsieur. Ève a douté seulement d'un petit mot, pas de tout ce que Dieu avait dit, seulement d'un petit mot. Et cela produit tous les chagrins, toutes les douleurs, la mort, le péché, les combats et tout le reste. Toutes les tombes, toutes les ambulances qui hurlent, tous les hôpitaux qui ont été construits pour les malades. Le fait qu'il ait douté un petit peu d'un seul petit mot de la parole de Dieu a produit tout cela. Et elle a été mise dehors, alors que cela n'aurait jamais dû arriver. Comment allez-vous entrer en doutant d'un modèle? Vous dites, je sais qu'elle dit ça, mais elle veut dire exactement ça. Maintenant, regardez, Dieu doit juger le monde par quelque chose. On ne peut pas avoir de jugement avant d'avoir premièrement une loi. Il faut quelque chose, il faut qu'on désobéisse à quelque chose pour pouvoir être jugé, voyez. Et ensuite, il ne peut pas y avoir de jugement valable sans peine. Alors, vous voyez, on ne peut pas avoir de loi en ville qui dit « amende de 5 $ pour avoir brûlé un feu rouge » et une autre loi qui dit « non, il peut partir libre ». Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Ainsi, il ne peut pas exister 2 lois simultanément. Il y a une loi, un Dieu, un livre, un Christ. C'est tout. Une foi, une espérance. C'est tout. C'est la Bible, Christ. Remarquez maintenant, avec ceci, si quelque chose doit être ajouté à ceci, il faut que ce soit ajouté par l'homme. Ça ne peut pas être plus que... Et si Dieu va juger le monde par une église, comme le disent les catholiques, alors par quelle église catholique va-t-il le juger? Il y en a plusieurs. Il y en a une romaine, une grecque, et oh, il y en a de différentes sortes. Par quelle église catholique va-t-il le juger? Ou bien, peut-être qu'il va le juger par l'église luthérienne. Eh bien alors, et peut-être qu'il va le juger par l'église presbytérienne. Voyez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le juger par une église, il va le juger par sa parole. Eh bien, alors, vous voyez, il ne peut pas garder un groupe de gens, comme le montrait la vision de la sœur l'autre soir, quand le Saint-Esprit a été déversé là-dedans. Il a passé tout droit à travers ce coffre. C'est sûr, rien ne retient cela. Il s'agit d'un individu. Il est donné pour purifier l'Église, mais elle ne peut pas le retenir. Aucune organisation ne peut le retenir. Un point, c'est tout. Elle ne le peut pas. Vous avez tout là-dedans, et vous ne pouvez pas le faire. L'organisation ne peut pas le faire. Mais c'est l'individu qui a le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, alors si Dieu va juger le monde par sa parole, alors il a certainement veillé sur elle et l'a gardée en bon état. Sinon, si elle est tout embrouillée, comment va-t-il pouvoir amener le jugement? Voyez, il faut quelque chose. Et il n'a jamais dit « quiconque » par l'Église. Il a dit « quiconque retranche un mot de ceci » ou « y ajoute un mot ». Celui-là se verra retrancher sa part du livre de vie. Alors, pour moi, c'est Dieu, sa parole et le jugement. Maintenant, si moi je juge et accepte la parole et vois que Christ est mort pour moi, alors je demanderai que sa vie entre et me guide. Et si sa vie est la parole et qu'il a écrit la parole, comment sa vie peut-elle être en moi si je prétends avoir le Saint-Esprit et que j'ajoute un dogme à la place de la parole, ça ne marcherait pas. Comment puis-je ajouter une dénomination alors qu'il est contre ça et l'a prouvé et l'a montré à travers l'histoire que toutes les fois qu'il forme une dénomination, il meurt spirituellement? Oh, ils ont de plus en plus de membres, ça c'est sûr, c'est vrai. Ils ont de plus en plus de membres, mais spirituellement, ils ne vont nulle part. Montrez-moi, dites-moi dans l'histoire qu'il y a une église qui, après s'être organisée, elle est morte immédiatement. Le Saint-Esprit l'a quittée, il n'y avait plus de miracles et de signes, et elle a sombré dans le chaos. C'est exactement ce qui est arrivé à nos églises pentecôtistes. Elles ont fait exactement ce que leur mère avait fait. Au commencement, ils sont sortis. C'était un peuple qui avait rejeté les dénominations. Maintenant, certains parmi vous, frères, qui écoutent cette bande, certains qui sont âgés, vous savez qu'il y a bien des années, 40, 50 ans, si on vous avait parlé d'une organisation, vous auriez dit que c'était un blasphème. Mais aujourd'hui, vous faites partie de ce que vous considériez comme un blasphème. Vous, femmes, qui vous coupez les cheveux et qui vous peinturlurez le visage, votre mère était contre cette bonne vieille sainte pentecôtiste. Que vous est-il arrivé? Paul a dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Voyez, autrefois, vous étiez libérés de ces choses, mais vous avez voulu être comme les autres. C'est exactement ce que Samuel a dit. Israël avait un roi, et c'était Dieu. Ils ont dit, Samuel, tu te fais vieux, établis un roi sur nous. Nous voulons être comme le reste du monde. Nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons un roi qui conduise nos guerres. Nous voulons un roi qui puisse combattre pour nous. Et cela a déplu à Samuel. Il a dit, vous ai-je déjà pris quelque chose? Ai-je déjà pris votre argent? Vous ai-je déjà demandé un bœuf ou autre chose? Vous ai-je déjà demandé quoi que ce soit? Ils ont dit, non, tu ne nous as jamais rien demandé. Et il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Pas vrai? Il a dit, alors n'accueillez pas ce roi, parce que ça va tourner au chaos pour vous. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, Branham Tabernacle. Vous êtes sur le point de devenir un grand tabernacle maintenant. Il se peut que je sois absent quelque temps. Il se peut que j'aille quelque part. Qui sait où le Seigneur va m'appeler? Peut-être à quitter la scène. Peut-être à revenir de le champ de travail. Il va peut-être m'appeler dans un endroit désert. Je ne sais pas où il va m'appeler jusqu'à ce que Jésus vienne. Je veux vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà demandé quoi que ce soit? Vous ai-je déjà soutiré de l'argent? Vous ai-je déjà dit quelque chose sur les milliers de choses que je vous ai dites au nom du Seigneur qui ne soient pas arrivées? Alors, ne vous joignez jamais à une organisation. C'est contre la parole de Dieu. Sortez d'elle si vous vous y trouvez. Séparez-vous et recevez la parole du Seigneur. Courbons la tête. Grand Dieu des prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ajoute de la vertu, Seigneur, à ce petit message haché que j'avais sur le cœur depuis longtemps, destiné à mes frères. Beaucoup de ceux qui sont là-bas, Seigneur, ont une fausse impression de moi. Ils croient que je veux me singulariser. Ils croient que j'essaie d'être un « je sais tout ». Ils ont dit aux gens que je séduis les gens, spécialement à propos de thèmes comme le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus, la semence du serpent, la grande prostituée, et beaucoup de ces bandes qui ont été diffusées et ne contiennent que la pure vérité. Et je leur ai demandé que quelques-uns parmi vous viennent me montrer où je pêche, où suis incrédule, où interprète mal la parole. Et aucun ne s'est présenté. Je te prie, Père, de faire savoir à ces hommes qu'ils passent à côté de cette heure. Ils vont attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard, s'ils ne font pas attention. Puissent-ils tous, Seigneur, je suis sûr de ceci, Mon cœur se briserait si ce passage de l'Écriture n'était pas réel pour moi. Alors que tu as dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mes brebis entendent ma voix. » Alors, Seigneur, je crois que le royaume est vraiment comme tu l'as dit. Je sais que c'est comme ça. C'est comme un homme qui a pris un filet et qui est allé au lac. Il a jeté le filet et a retiré toutes sortes de choses. Sans doute qu'il y avait des poissons vidangeurs. Il y avait des tortues, des araignées d'eau, des serpents, tout ce que le filet de l'Évangile a attrapé. Mais finalement, avec le temps, l'écrevisse est retournée dans l'eau. La tortue s'est retirée. Le serpent a sifflé et retourné dans la vase, comme un chien à ce qu'il avait vomi ou une truie à son bourbier. Mais il y avait là des vrais poissons, Seigneur. Et j'ai cette consolation, c'est de savoir qu'avant même que le filet les entoure, c'était déjà des poissons. Ils sont nés poissons, prédestinés à l'être. Et il en est ainsi avec le filet de l'Évangile qui en attrape pendant les réunions de réveil. Tu connais ceux qui t'appartiennent. La seule chose dont je sois responsable, Père, autant que je le sache, c'est de rester fidèle à cette parole. C'est toi qui décides vraiment qui est qui. Et je sais que, de même qu'une tortue ne peut devenir une truite, de même un homme ou quelqu'un qui est sourd à l'Évangile ne pourra jamais comprendre la vérité. Car le Père a vu ceci d'avance, et tu as promis que tous ceux qu'il te donnerait viendraient. Père Céleste, je te prie que chaque personne qui entend ce petit message, la lumière dans laquelle il a été prêché, et ce que j'éprouve dans mon cœur pour mes semblables, ces gens pour lesquels tu es mort, ces hommes, certains sont là, Seigneur, comme dans le groupe de Corée, sont de véritables hommes, mal dirigés, un saint encensoir à la main, mais ils ont péri. Oh, ils n'ont même pas voulu laisser l'encensoir enflammé être englouti avec eux. Éléazar, le fils d'Aaron, a dû les rassembler. Et de ces récipients, ils ont fait une bannière pour l'autel, un bouclier, pour montrer et rappeler cette chose terrible. Corée avait essayé de former un parti organisé pour s'opposer aux messagers de Dieu. Loin de nous cette pensée, Seigneur, que le Saint-Esprit nous protège toujours. Nous te remercions, Seigneur, pour notre petite église, ce petit temple sacré. Il y a de nombreuses années, une trentaine d'années, je me suis agenouillé ici dans cet étang plein de roseaux et d'humidité, et nous t'avons consacré ce terrain, cette petite construction. Et là-bas, à l'angle de ce tabernacle, est déposée cette vision. Elle s'est accomplie exactement. Elle s'y trouve toujours. Ils ne vont pas le démolir, Seigneur. Ils vont simplement, il devient vieux, et ils vont simplement le conserver en le recouvrant d'un autre. Ô Dieu, fais que cet évangile doré, qui est enregistré ici sur ces pages, ne quitte jamais cette petite église, jusqu'à ce que Christ vienne. Que chaque membre du corps de Christ, ils viennent ici de tout le pays et du monde entier. Que chacun reçoive la lumière, l'évangile, marche en elle et reçoive Christ. Et que cela soit si réel que ces paroles s'accompliront. Ils feront aussi les œuvres que je fais. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et quand la vie éternelle entre, ils naissent d'en haut. Et les œuvres qui viennent de Dieu se manifestent, parce que c'est la même vie que celle qui était en lui. Elle ne peut pas produire autre chose. Alors, Père, que cette Église ne fasse jamais reposer sa destinée éternelle sur une sensation, sur une organisation, sur autre chose que Christ lui-même vivant en eux, confirmant sa parole par eux et sa promesse. Que chacun reçoive cette expérience depuis le plus petit enfant ici ce soir jusqu'à la personne la plus âgée. Et que chaque homme ou femme, garçon ou fille, qui écoute cette bombe, qu'il en soit ainsi pour eux, Seigneur, et fais-leur comprendre que j'essaie seulement d'avertir et d'appeler à sortir, car cette heure est plus avancée que nous le pensons. Et nous voyons Babylone, la mère prostituée, et toutes ces filles impudiques qui se rassemblent. Ô Dieu, nous nous rendons compte que l'Écriture dit que l'ivraie, qui est dans le champ de blé, sera d'abord liée en gerbe. Et ils se sont liés en gerbe, en s'appelant par des noms blasphématoires, qui, en fait, ne se rapportent pas à elle. Ils ne se rapportent pas non plus à l'Église. Ce sont des clubs, pas des églises. Il y en a une seule parmi elles, Père, et c'est celle pour laquelle tu es mort. Et je prie, Père, alors que nous les voyons toutes en train d'être liées maintenant pour un feu atomique, bientôt, je te prie, Seigneur, de faire en sorte que le blé soit bien plein et lourd. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous croître et répandre la lumière et être comme Jésus. Si je ne fais pas les choses que Dieu exige de moi, alors je n'ai pas la vie en moi. Mais si Dieu parle et montre sa vie, alors cela parle de lui-même. Accorde-le, Seigneur. Je te remets ce message. Veille sur lui et amène des dizaines de milliers de personnes, Seigneur, ou plutôt tous tes enfants prédestinés à l'Évangile. En Jésus-Christ, qui est la parole, en son nom je prie. Amen.
Salvation on Calvary.
Je vais poser la question. Combien êtes-vous ici ce soir, dans cet auditoire visible, dans cette belle grande église comble, ou maison comble plutôt, dans ce lieu d'adoration, à croire de tout votre cœur que votre vie satisfait aux exigences, vous, de Dieu et de la Bible, et vous croyez, en considérant votre vie et en voyant comment l'Esprit agit en vous, qu'elle croit chaque parole telle qu'elle est écrite et la garde? La croyez-vous? Que Dieu vous bénisse, qu'il garde à jamais son esprit sur vous. Et à vous, mon ami, qui écoutez la bande, j'aurais souhaité que vous puissiez regarder cet auditoire ici ce soir. Je crois qu'au moins 90% des gens ont levé la main pour montrer qu'ils croyaient et observaient la Bible. Pas ce que l'Église dit, ce que la Bible dit. Pas ce que le club dit, ce que la Bible dit. Et ils voient la vie de Christ qui se reflète en elle. Vous savez, dans le temps, avant qu'on ait les hauts fourneaux, l'orfèvre battait l'or avec un marteau. Je suppose que vous en avez entendu parler. Avant qu'il aille dans le haut fourneau, on le battait. L'or est la matière la plus lourde. Il est plus lourd que le plomb. J'ai fait un peu de prospection. On peut prendre dans la main le sable qu'on trouve dans le désert, dans le lit asséché d'une rivière, et le frotter avec la main, et ensuite souffler comme ça. Et la poussière et tout s'envole. Les pierres, mais l'or est si lourd qu'il reste là. Et ensuite, quand on ramasse cet or, il a roulé à travers tellement de terre qu'il a accumulé beaucoup de choses. Et au cours des âges volcaniques, il en a accumulé des dépôts et tout. De la pyrite et d'autres matières se sont mélangées avec lui. Le batteur prenait cette masse d'or et la battait et la retournait et la battait et la retournait. Il la battait jusqu'à ce qu'il en ait fait sortir toutes les impuretés. Et vous savez comment il savait qu'il en avait fait sortir toutes les impuretés? Il pouvait y voir le reflet de sa propre image. Et c'est comme ça que Dieu fait avec l'Église. Il bat tous les credos, toutes les dénominations, tous les dogmes humains, jusqu'à ce qu'il puisse, lui, voir le reflet de sa propre vie en vous. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Voyez, si ce qui était prévu pour l'Église, La vie qui était en Christ ne se reflète pas en vous. Ne restez surtout pas inactif. Si vous n'avez pas la patience, la vertu, toutes ces choses, et la tempérance, et ces choses, la piété, l'affection fraternelle, et toutes ces choses qui vous sont demandées, peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien vous avez crié de joie, à combien d'églises vous avez adhéré, de combien de plumes vous vous êtes couvert, ne faites pas ça. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez authentiquement pardonner de tout votre cœur, jusqu'à ce que vous ayez de l'affection fraternelle dans votre cœur. Peu importe qu'on vous arrache une poignée de poils de la barbe d'un côté, vous pouvez tendre l'autre joue avec douceur. Vous voyez, jusqu'à ce que ces vertus, peu importe ce qu'on vous dit, quand ils lui ont entouré la tête d'un chiffon et l'ont frappé sur la tête en disant, « Eh bien, on raconte que tu es prophète. » Puis, ils lui ont arraché le chiffon, et l'un d'eux, qui tenait le bout de bois, a dit, « Qui de nous t'a frappé ? Prophétise, et dis-le-nous. » En d'autres termes, nous croirons alors que tu es prophète. Il n'a jamais ouvert la bouche. Quand vous entendez parler de la venue d'un prophète, qui a la réponse à tous les trucs qu'on peut bien lui présenter, souvenez-vous, ce n'est pas un prophète. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent tout, quand ils vont avoir mal aux dents et quand ils vont avoir un mal de ventre et tout le reste, et qu'on leur dise tout à ce sujet. Ça, ce n'est pas la nature de notre Dieu. Observez les prophètes, observez Jésus. Regardez Paul, lui qui a pu frapper un homme de cécité et laisser le forgeron le chasser hors du pays. Je crois qu'il a perdu son pouvoir de frapper de cécité. Jésus, qui pouvait ressusciter les morts, et pourtant, il a dit, un soldat ivre lui a craché au visage, s'est raclé la gorge et a craché, et lui a arraché de la barbe de son visage. Il a frappé sur la tête, alors qu'il était entouré d'un chiffon, et a dit, « Prophétise, et dis-nous qui t'a frappé !» Et il n'a pas ouvert la bouche. Ne vous occupez pas de tous ces truqueurs, mais souvenez-vous, ils ne font qu'indiquer. Un faux dollar indique seulement qu'il en existe un véritable quelque part. Quand vous voyez tout ce fatras d'organisation se développer et prospérer, comme il est dit, il fera prospérer la fraude dans sa main. Souvenez-vous donc qu'il y a une petite église de Dieu quelque part, vraiment remplie du Saint-Esprit, authentique, qui est en train de monter l'échelle. Ne regardez pas la grosse organisation. De quelle église plus grande que celle de l'âge de l'église d'Éphèse est-il parlé dans la Bible? Quand Paul a parcouru les hautes provinces d'Éphèse et qu'il est arrivé à cette église-ci, il s'y trouvait 12 hommes. C'est vrai. Ils étaient tous de braves gens. Ils avaient poussé des cris de joie et avaient passé des moments merveilleux. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul a dit, « Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils ont dit, « Eh bien, nous ne savions pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Alors comment avez-vous été baptisés ?» Si cela ne changeait rien à l'affaire, qu'est-ce qu'il a dit à cette église-là? Ils ont dit, « Nous avons déjà été baptisés par l'un des plus grands hommes à s'être tenu sur la terre, Jean-Baptiste, qui a baptisé notre Seigneur. Ce baptême n'est-il pas suffisant ?» Il a dit, « Non, monsieur, vous devez être rebaptisés, parce que le royaume est scellé à tout le reste. » Et quand ils ont entendu ceci, il a dit, « Jean a seulement baptisé du baptême de repentance, pas pour la rémission des péchés, en disant de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire en Jésus. » Et quand ils ont entendu ceci, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, exactement. Ils ont suivi l'Écriture. Vous savez, à la dédicace ce matin, Moïse a suivi le modèle qu'il avait vu dans le ciel et a dressé une tente pour le représenter. Quand Salomon a construit le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le modèle que Moïse avait laissé avec la tente pour garder l'Écriture bien alignée. Et quand Dieu est venu dans son temple pour les derniers jours, ce temple-ci, le Saint-Esprit, tu m'as préparé un corps. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Le message était, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous voulez appeler votre ministre un docteur, le docteur Simon Pierre a rédigé une ordonnance éternelle. C'est ça qui guérit les malades. Lorsque ces espèces de pharmaciens charlatans essayent, par la dénomination, de l'exécuter autrement, c'est pour ça qu'ils ont, vous savez, si vous n'ajoutez pas, vous en ajoutez trop à l'ordonnance, vous pouvez, trop de poison, Vous risquez de tuer votre patient. Si vous n'en mettez pas assez, vous, pas pour l'antidote, si vous n'en mettez pas assez, cela ne fera aucun bien à votre patient. Votre médecin sait parfaitement comment rédiger l'ordonnance. Et Christ, le Saint-Esprit, est le rédacteur de l'ordonnance. Il l'a rédigée. N'y ajoutez rien ou n'en retranchez rien. Prenez simplement le médicament comme il est. C'est le remède à tous les maux. Que Dieu vous bénisse. Vous l'aimez? Amen.
Just my salvation. Oh.
Maintenant, pendant que nous le fredonnons, retournez-vous et serrez la main à votre voisin, là. Oh, lui aussi est un pèlerin qui ne fait que passer. C'est merveilleux. Venez dans cette allée. Oui, merci mon frère. Chantons-le maintenant. Maintenant, courbons la tête, fermons les yeux, levons les mains et nos voix vers Dieu, alors que je vous confie au pasteur. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons pas de loi, si ce n'est l'amour, pas de credo, si ce n'est Christ, pas de livre, si ce n'est la Bible, pas d'affiliation, seulement la communion par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute incrédulité. Très bien. Maintenant, tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Revenez nous rendre visite. Très bien, pasteur. Tu es prêt? Que Dieu te bénisse.